Bonjour à tous. Bienvenue dans cette dernière. Bienvenue dans cette dernière conférence qui va clôturer l'événement Train du Climat à Climatera, donc qui a fait étape à Poitiers, deuxième étape de la tournée en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez peut-être eu l'occasion de visiter l'exposition du TER hier, qui était en gare. Si c'est donc faite par les messagers du climat, si ce n'est pas le cas, vous pourrez la retrouver à Limoges le 18 octobre. Sinon à Bordeaux le dimanche 21, à Biarritz le 25 octobre et à Agen le 5 novembre. Voilà, donc vous avez l'embarras du choix. Mais ça vaut le coup de la voir. Je pense que ceux qui ont pu la visiter seront d'accord avec cela. Donc je vais sans plus tarder donc donner la parole à Bernard Legube, qui à la fois donc en tant que membre du comité scientifique à Climatera et qui va pouvoir débuter cette table ronde sur sécheresse. De quoi parle-t-on? Bonne conférence.
Oui, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être présent. C'est vrai qu'on aurait préféré d'avoir un peu plus de personnes. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais merci vraiment pour ceux qui sont là. Pourquoi c'est pas par flagornerie ou pour être flatté particulièrement, mais nous, scientifiques ou décideurs ou observateurs avisés sur ces problèmes de sécheresse et de changement climatique, ça fait partie de notre mission d'informer le grand public, d'informer les élus, pour que vous puissiez mesurer les enjeux qui nous attendent, notamment sur cette question de changement climatique, dont on parle beaucoup ces derniers temps, alors qu'on aurait pu en parler aussi il y a 10 ans ou il y a 2 ans. Mais tant mieux que nous en parlons. Aujourd'hui, on a décidé avec le comité d'organisation, dont Camille, que je remercie au passage, Camille Jonchère faisait partie, bien sûr. Je remercie aussi l'Espace Landes France de nous avoir prêté cette salle et accueilli dans cette salle, de faire plutôt qu'une conférence aujourd'hui une sorte de débat, table ronde autour de la sécheresse. Alors évidemment, quand on parle de la sécheresse, entre nous, c'est « j'arrive pas à bêcher mon jardin, la terre est trop dure », ou c'est sur la Nouvelle République que le Clain atteint son débit d'étiage rarement atteint dans cette période de l'année. Mais les effets de la sécheresse, ça va un petit peu plus loin que cela, bien que ces deux phénomènes dont je viens de parler, la sécheresse des sols, le stress hydrique des sols et la diminution du débit des rivières sont des phénomènes importants. Donc on va essayer d'aborder un certain nombre de choses sans trop rentrer dans les détails, bien évidemment, puisque le temps, d'une part, imparti est assez court, et d'autre part, parce qu'on souhaite échanger avec la salle sur cette question. Alors, se sont joints à moi pour ce débat conférence-table ronde, dans l'ordre alphabétique, Abad Chabi, qui se présentera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais qui est directeur de recherche à l'INRA, j'allais dire CNRS, pardon, INRA, c'est-à-dire l'Institut National de Recherche Agronomique de Lusignan. Maintenant, il est à Paris, mais il a travaillé longtemps à Lusignan. Donc, c'est un chercheur scientifique. Il nous parlera des sols. Stéphane Despons, qui est donc, lui, plutôt pour représenter les décideurs, quelque part, puisqu'il est directeur du service eau et assainissement. Alors, de Poitiers ou du Grand Poitiers? Du Grand Poitiers, pardon Stéphane, merci. Frédéric Montigny, qui est de l'Agence régionale de biodiversité Nouvelle-Aquitaine, que vous avez connu peut-être plus sous le nom d'Observatoire régional de l'environnement, qui n'existe plus maintenant et qui est donc fusionné avec d'autres organismes au niveau de l'ensemble de cette nouvelle région Nouvelle-Aquitaine. Frédéric s'occupe particulièrement des ressources en eau et des qualités d'eau. Lui et Abad, d'ailleurs, m'ont beaucoup aidé sur la rédaction de l'ouvrage Acclimatera que j'ai apporté ici sous sa version pleine. Il existe aussi une version résumée dont parlait tout à l'heure Camille. Et Alain Persuit, qui a participé, il était obligé, pour des raisons personnelles, familiales, de se décommander. C'est un spécialiste de la forêt. Mais il a participé et j'essaierai de transmettre quelques informations qu'il m'a données. Alors, le déroulé que je vous propose, c'est tout d'abord, je vais vous présenter quelques constats de la sécheresse, sur la sécheresse aujourd'hui, constats généraux, qui seront complétés par Frédéric ensuite sur l'eau et par Abad sur les sols, n'est-ce pas ? Je reviendrai éventuellement après leurs deux interventions pour insister peut-être un peu plus sur les effets prévisibles du changement climatique sur notamment sur les eaux, parce que peut-être qu'Abad va le faire sur les sols. Ensuite, nous aurons un premier débat sur ce point-là. Puis nous ferons un zoom sur la problématique eau potable, qui est une problématique, je pense, qui vous intéresse particulièrement. Donc on écoutera Stéphane. Moi-même, je t'inviterai peut-être aussi un petit peu, puisque l'eau potable est une de mes spécialités depuis longtemps, dans ma carrière d'universitaire. Et on fera à nouveau un débat avant de conclure, en essayant, Camille, de rester dans les temps. Merci, elle me connaît, elle sait que je ne reste pas toujours dans les temps. Alors, commençons par les diapositives que je voulais vous montrer. Alors, quelques constats. Alors, cette diapositive, tout le monde la connaît, enfin tout le monde, notamment ceux d'entre vous qui ont assisté hier à la présentation excellente d'ailleurs de Virginie Mijot à l'espace Tounaille, qui nous a présenté le contenu de ce rapport, enfin une partie du contenu. Ici, il s'agit, comme vous le voyez, d'élévation observée de la température moyenne annuelle en Nouvelle-Aquitaine. Il ne s'agit pas de prévision. Il s'agit d'un constat, d'une observation. Vous voyez que la référence, alors ici il s'agit d'écart, évidemment, et non pas de température, mais d'écart de température. La référence est vers les années 60, qui a été prise comme référence écart zéro. Et vous voyez donc en bleu les diminutions de température, ce sont les températures moyennes annuelles. Et vous voyez en rouge, pour chaque année, les augmentations de température. Et on voit très bien le basculement, notamment vers la fin des années 70, début des années 80, de l'augmentation de la température due sans aucun doute au changement climatique. Alors si on se permet, même si ce n'est pas tout à fait rigoureux, de regarder la différence qu'il y a entre le zéro et puis vers ce quoi on tend, parce que 2017 n'est pas reporté ici, ni 2018, bien sûr, on voit qu'il y a 1,4 degré de gain en plus, donc, en moyenne sur la Nouvelle-Aquitaine. Alors, j'attire votre attention sur le fait que si on fait la même chose sur la planète, on n'est pas à 1,4, on est à 0,8. Je regarde mon collègue climatologue, là-bas, je crois que c'est 0,8. Si on fait la même chose au niveau du territoire national, on est, comme en Nouvelle-Aquitaine, aux environs de 1,4 à 1,5 degrés. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ? J'y répondrai pas, je ne suis pas climatologue, mais il y en a dans la salle, on pourra peut-être y répondre, en supposant qu'on puisse y répondre. Mais il se trouve qu'en France, comme en Nouvelle-Aquitaine, nous avons une augmentation de température très significative, qui va continuer, mais j'en parlerai tout à l'heure. Si on regarde les précipitations, il s'agit aussi de cumul annuel de précipitations. Donc c'est les données de Météo France, ça, en fait, qui ont été, comme les données d'avant, qui ont été reprises, synthétisées par le groupe Acclimatera. C'est pour ça que vous voyez le logo Acclimatera. Mais il y a décrit quelque part, même si ça se voit un peu moins, Météo France. Pluviométrie, en précipitation, vous voyez, il n'y a pas de tendance. Sauf que là, il s'agit de moyenne annuelle, de cumul annuel. Donc, pour être plus précis, nous ne l'avons pas fait au niveau d'Acclimatera, mais il faudrait le faire. il faut regarder la répartition de la pluviométrie dans l'année pour voir si des périodes sèches sont vraiment plus longues, ce qu'on va voir sur les sols derrière, et des périodes de pluie intense sont également plus longues ou plus intenses en termes de millimètres de pluie. Je suis toujours dans les constats. Alors, on nous dit, si la température monte, et même si la pluviométrie ne change pas, il va y avoir un peu plus de transpiration, ce qu'on appelle l'évapotranspiration, par les sols, les plantes. Donc, il y a un risque de voir les régimes hydrologiques des cours d'eau, bien sûr, modifiés. Je parle toujours de constats. Qu'est-ce qu'on constate? Alors là, j'ai pris des valeurs et des chiffres que Climaterra a regroupés pour la Garonne, qui est évidemment le fleuve emblématique de la Nouvelle-Aquitaine, et également la Dordogne. Vous voyez que nous avons des diminutions de débit, que j'ai dû là aussi, j'ai pris le risque, en 50 ans, de calculer. Alors calculer sur la régression linéaire ici, qui peut être discutable sur le plan purement scientifique, je l'admets, ou purement mathématique, mais nous sommes déjà dans des diminutions de débit de 26 et 28% ici, disons entre 25 et 30%, ce qui est énorme, mais on n'a pas encore atteint le pire. Si je regarde la température des eaux de surface, là, c'est un travail de Frédéric qui est ici, et qui porte sur des rivières qu'on connaît mieux, la Charente, la Seine-Niortaise et la Vienne. Alors là aussi, on peut discuter de la façon dont on a interprété ces résultats, n'est-ce pas Frédéric? Mais on a essayé quand même de choisir des points caractéristiques sur lesquels on était presque sûr qu'il n'y ait pas d'influence extérieure à celle du climat. Et ben, vous voyez qu'on retrouve, tout compte fait, sur la température de l'eau de ces trois rivières, on retrouve à peu près les 1,4 degrés d'augmentation de la température sur une période à peu près similaire, exactement similaire. Enfin, un dernier constat, et ça c'est pour vous mettre dans le sujet, les sols. Ici, il s'agit de l'étendue des sécheresses agricoles. Ce n'est pas le dernier constat, j'en ai un autre, c'est l'avant-dernier. Alors, bon, je ne vais pas commenter tout à fait dans le détail les différents pics que vous voyez ici parce que les couleurs ne ressortent pas très bien. Ce n'est pas lié à la projection, c'est lié à l'original de la figure. Il s'agit en fait des pourcentages de surface considérés comme en stress hydrique. On pourra demander à Abad éventuellement comment s'est calculée cette affaire-là, je pense, qui pourrait nous répondre. Mais ce qui est important, si vous voulez, c'est de regarder cette courbe noire. Vous voyez qu'il augmente, et c'est le pourcentage de surface ou de l'étendue des sécheresses agricoles telles qu'on l'observe depuis les années 70 à peu près. Et vous voyez qu'on a augmenté, et c'est normal, compte tenu de la température qui augmente, de 6 à 7%. Enfin, dernier constat avant de donner la parole à Frédéric, les forêts. J'excuse à nouveau Alain Persuit qui a vraiment eu un problème de dernière minute, qui n'a pas pu se joindre à nous et qui m'a envoyé ce matin rapidement quelques petits bouts de texte que je vais essayer de vous commenter, bien que je ne suis pas tout à fait spécialiste des forêts. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Alain? Il nous dit, c'est un spécialiste des forêts. Les forêts de la région subissent déjà les atteintes des sécheresses répétées. Dépérissement du chêne pédonculé, notoirement, accentuation des effets de maladies comme la graphiose de l'orme, l'encre du châtaignier, je ne donnerai pas trop de précision sur ces maladies, je ne suis pas biologiste, mais bon, même si j'ai quelques informations quand même dessus, fragilisation des arbres de toute espèce qui ne stockent plus de sucre dans leur sève en été, ce qui diminue leur résistance au gel de l'hiver. C'est ce qu'on constate. Donc il y a un dépérissement des forêts. D'ailleurs, en regardant sur Internet, allez voir Forêt de Mareuil, par exemple, vous allez voir des zones qui dépérissent, notamment les zones de pins, parce que les feuillus résistent un peu plus au changement climatique, à l'augmentation de température et au stress hydrique que les pins. Vous verrez des zones de pins qui sont en train de dépérir dans nos forêts. Voilà donc quelques constats que je voulais faire. Frédéric, il va falloir que tu interviennes juste après moi. Comme je vous l'ai dit, nous ne voulons pas trop mobiliser la parole. On veut avoir un échange avec la salle. Donc on va peut-être aller un peu plus loin dans les constats maintenant. Par exemple, pour Frédéric, ressources en eau en termes de disponibilité et je pense aussi de qualité. Surtout quantitatif, mais tu peux parler de qualité s'il y a bien sûr des questions là-dessus. Et ensuite, avec Abad sur les sols, je reprendrai la parole ensuite. D'accord. Mais quand même sur la relation qu'il y a entre sécheresse, agriculture, changement climatique. Moi, je reprendrai la parole après pour parler peut-être un peu plus de ce qui nous attend dans les 30 ou 80 années qui viennent. Avant de faire un débat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et après de focaliser sur le potable. Frédéric, c'est à toi.
Merci Bernard. Oui, moi je vais surtout vous parler, on va continuer dans les constats, du coup un constat un petit peu général, du coup sur à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, mais j'essaierai aussi de zoomer sur notre territoire qui est le bassin du Clain, ou voire Poitou-Charentes.
Ah, c'est ça, d'accord.
Celle en dessous.
Celle en dessous.
Et je finirai par un petit point de situation vraiment actuelle en fait, du mois de septembre sur la situation quantitative du coup, en Poitou-Charentes. Donc oui, moi je travaille à l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine, qui a été récemment créée au 1er janvier 2018, qui est issue d'une fusion entre deux structures, deux associations, donc l'Observatoire régional de l'environnement et l'Agence régionale de biodiversité Aquitaine. Et je suis chargé d'études eau. Donc les constats généraux, je vous ai mis une carte en fait, la Nouvelle-Aquitaine, qui représente en rose pâle les zones de répartition, donc ZRE, où il y a en fait une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. Donc après les petits camemberts que vous voyez, du coup ça ce sont les volumes prélevés, donc les volumes d'eau douce prélevés pour les différents usages. Mais déjà on constate rien qu'avec ce classement en ZRE. Que quasiment l'intégralité, pas tout à fait l'intégralité, mais en tout cas l'ex-Poitou-Charentes est très concerné, le nord de la région Aquitaine également, un peu moins sur le Limousin, mais on est déjà dans une situation où on a une insuffisance chronique des ressources par rapport aux besoins. Petit zoom juste sur le département de la Vienne, du coup, effectivement il y a une particularité sur la Vienne, donc sur le coudreau de la Vienne, c'est les prélèvements pour l'usage énergétique pour la centrale de Civaux, qui sont réalisés donc dans la Vienne, pour le refroidissement des réacteurs, donc qui concentre une part importante, donc un peu plus de la moitié des prélèvements du département. Bon, c'est à noter quand même que ces prélèvements sont quasiment... Il y a une petite partie qui s'évapore, mais ils sont quasiment intégralement retournés au milieu après utilisation. L'eau potable est également le deuxième secteur dans le département de la Vienne, donc c'est l'agriculture, avec environ 30%. Et ensuite, l'eau potable avec 18%. Donc après, on voit que selon les départements, on a des répartitions différentes et des volumes également différents. Donc voilà, on est dans une situation où il y a quand même des déséquilibres. Et le code de l'environnement, en fait, prévoit de donner une priorité à certains usages. Et donc le premier usage prioritaire, c'est l'usage de l'eau pour santé ou l'alimentation en eau potable. Ensuite, c'est pour la vie aquatique, donc pour les circulations des poissons, etc. Et viennent ensuite les usages économiques, notamment comme l'agriculture. Ce qui fait qu'en fait, tous les ans, donc là, c'est la carte que j'ai mise en illustration, c'est les prises d'arrêtés, donc au 31 août de cette année, à l'échelle donc, de la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est les bassins qui sont concernés par des mesures de restriction, voire d'interdiction des usages agricoles. Donc là, on voit qu'il y a une bonne partie qui sont concernées. Et il y a des années où vraiment, notamment en Poitou-Charentes, moi je parle de Poitou-Charentes parce qu'à l'époque, je travaillais plutôt sur ce territoire-là, la carte, elle était toute colorée. Hein. Donc c'est vraiment... on a souvent des restrictions, alors qu'en théorie, si on avait une gestion équilibrée, on ne devrait pas en fait avoir autant de restrictions. C'est vraiment en état de crise normalement qu'il devrait y avoir des restrictions. Donc ça illustre encore le fait qu'on est dans une gestion qui n'est pas équilibrée, quoi, qu'on n'arrive pas en fait à atteindre une gestion équilibrée, et ce qui peut engendrer du coup des conflits d'usage. Alors je rappelais du coup dans la priorité des usages, donc c'est d'abord l'eau potable, ensuite la vie aquatique, et normalement ensuite après les usages agricoles, donc qui sont quand même restreints bien souvent l'été. Mais au niveau des milieux aquatiques, on se rend compte que, en fait, justement, il y a quand même des problèmes à ce niveau-là, alors que c'est un des usages prioritaires. Et donc, il y a de nombreux cours d'eau qui sont concernés par des ASEC, donc en été. Alors là, la carte, c'est une synthèse, en fait, donc c'est de 2012 à 2017 de l'Observatoire national des étiages, qui est réalisé par l'Agence française pour la biodiversité, donc anciennement l'ONEMA. Donc voilà, on voit qu'on a quand même des secteurs. Alors, les points rouges, forcément, c'est les points les plus sensibles, là où on a quasiment la moitié des campagnes de prospection, donc de caractérisation d'écoulement des cours d'eau qui sont à sec, donc en rupture d'écoulement. Rupture d'écoulement, c'est qu'il y a de l'eau, mais elle ne s'écoule pas. À sec, c'est vraiment il n'y a plus d'eau. Donc oui, j'ai peut-être pas rappelé ça, c'est le principe de l'Observatoire national des étages, c'est de faire des campagnes de visualisation, enfin visuelle, d'observation de l'écoulement des cours d'eau sur des stations qui sont prédéfinies, tout le temps les mêmes, tous les ans. Il y a 5 campagnes, donc de mai à septembre, une en mai, une fin mai, une jusqu'à fin septembre. Et donc voilà, ça permet aussi de faire une petite synthèse. Donc on voit effectivement que il y a certains secteurs, notamment dans l'Expoitou-Charente, où on a quand même beaucoup de points rouges. On regarde aussi en Charente-Maritime, notamment. Un petit peu plus dispersé au niveau de la Vienne aussi et des Deux-Sèvres. Également à l'est du territoire, au niveau de la Creuse. Et en Lot-et-Garonne, où on a certains points sensibles. Et donc j'ai aussi, c'est un petit peu le même mode d'observation, mais par contre là on est sur des observations linéaires que réalisent les fédérations de pêche du coup tous les ans. Donc c'est à peu près les mêmes périodes de campagne, sauf que les fédérations de pêche réalisent tous les 15 jours au lieu de tous les mois, donc on a un petit peu plus de précision à ce niveau-là. Et là j'ai fait un zoom sur le bassin du Clain, donc voilà, qui est autour de Poitiers. Donc vous avez représenté ici. Et là encore, on voit qu'on a des ASEC donc récurrents. Les périodes de données, ce n'est pas exactement la même, elle est plus longue. On a pris de 2005 à 2017. Donc voilà, les secteurs qui sont le plus en rouge, ce sont ceux où on a eu le plus d'ASEC répétés en fait, sur la période donc 2005 à 2017. Donc on a certains secteurs amont des affluents du Clain, donc comme la Dive du Sud ou la Bouleur, voire la Palue là, qui est tout au nord, qui sont vraiment concernés par des ASEC répétés chaque année. Sur ces secteurs, il y a quand même des conditions hydrogéologiques un peu particulières qui font qu'on a tendance à avoir des ASEC un peu plus naturels, même s'ils peuvent être intensifiés, aggravés entre guillemets, par les prélèvements des différents usages. Et on a également aussi, je ne l'ai pas noté, mais sur la Clouère, donc, qui est tout au sud du bassin, des ASEC répétés, après des secteurs un peu plus épars, un peu sur la Vaune ou d'autres secteurs de petits affluents du Clain. Voilà, donc ça c'est pour le constat un petit peu plus général des dernières années. Là je vais vous faire un point de situation, vraiment la dernière situation connue du mois de septembre. Donc toujours sur les ASEC, voilà, on est dans une situation là avec un étiage qui tend à se prolonger à l'automne. Ça fait 3-4 années qu'on est à peu près dans cette situation à peu près similaire. Donc probablement qu'avec le changement climatique, en fait, ça deviendra peut-être une situation classique. Voilà, donc là c'est vrai que septembre ça a été un mois très sec et très chaud. Le mois d'août était passé avant aussi avec une canicule, etc. Donc les milieux souffrent de plus en plus du manque d'eau. Donc là c'est les mêmes. Ce sont les données de l'Agence française de la biodiversité, donc de l'Observatoire national des étiages. Donc les mêmes points de mesure que la grande carte qu'on a vue après, mais par contre sur le Poitou-Charentes. Et là, c'est pour vraiment la campagne de fin septembre 2018. Ce n'est pas une synthèse de différentes campagnes. C'est le dernier état de situation. Donc les points en rouge, ce sont les ASEC. En orange, donc les ruptures d'écoulement, les écoulements non visibles. Et en jaune, il y a encore de l'écoulement, mais qui commence à être faible. Et en bleu, donc l'écoulement visible qui reste acceptable. Donc la synthèse à l'échelle du Poitou-Charente, donc on a quand même quasiment un tiers des points, donc 28% là, qui sont en ASEC sur l'ensemble du territoire de l'ex-Poitou-Charente. Et si on fait un bilan, donc tous les mois on fait des bulletins de situation hydrologique, donc d'ailleurs je vous invite à consulter sur notre site. Et donc, en résumé, sur le mois de septembre, en fait, on a eu très peu de précipitations, autour de 10-15 mm. Au niveau des souterraines, on a eu une situation qui est à peu près acceptable, du fait, en fait, qu'on a eu vraiment des pluies intenses au premier trimestre 2018, qui ont permis quand même une bonne recharge des nappes. C'est, entre guillemets, un des points positifs pour l'instant. Les nappes résistent bien, du coup, au manque de pluie. Donc c'est pour ça que vous avez les petits pictogrammes en fait en bleu et en vert, parce qu'il y a à peu près 75% des stations de la région qui sont soit dans la moyenne, soit au-dessus de la moyenne interannuelle, donc pour le mois de septembre. Par contre, pour les cours d'eau, voilà, on a des situations donc plutôt déficitaires. On a à peu près la moitié des points des stations suivies qui sont inférieurs à la moyenne, et un peu plus de 10%, je crois, très inférieurs à la moyenne. Donc les conséquences, j'en ai parlé sur les milieux, donc on a des ASEC maintenant qui continuent, alors qu'on est quand même fin septembre, on devrait quand même basculer bientôt dans une période de recharge naturelle des eaux, sauf que là, elle tarde. Les autres usages, donc les barrages réservoirs, il y a 4 grands barrages en fait sur la région, donc 2 en Deux-Sèvres et 2 sur la Charente, sur le département de la Charente. Là encore, la situation est plutôt correcte, même si les usages ont quand même sollicité beaucoup ces stocks dans ces barrages réservoirs. Et j'en ai parlé également tout à l'heure, donc autre conséquence sur les usages, c'est qu'il y a beaucoup d'usages, bon, notamment agricoles, qui ont été restreints, voire interdits sur certains bassins. Et on a aussi pas mal de communes, notamment Poitiers, qui a pris des arrêtés de restriction pour les usages domestiques, pour les arrosages des jardins, etc. Voilà pour le petit constat. Je vais repasser la parole peut-être à Bernard. D'accord.
Merci pour votre attention. Merci Frédéric. On viendra aux questions tout à l'heure, hein, ne vous inquiétez pas. On continue notre programme comme prévu. Abad, tu nous dis un petit mot sur les sols ? Eh ben, c'est pas grave. On arrivera à l'intégrer. Avant que je revienne ensuite sur la partie changement climatique. Donc peut-être en attendant, s'il y a quand même une question vraiment, pas particulière, mais une question spécifique à ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, notamment sur les ressources en eau et la disponibilité des ressources en eau, en particulier pour cette année 2018. On peut la prendre maintenant, le temps qu'on fasse notre changement d'ordinateur. Monsieur Lacroix, président de la Fédération de pêche des Deux-Sèvres.
Oui, Pierre Lacroix, président de la Fédération de pêche des Deux-Sèvres. Je voudrais d'abord remercier le professeur Légube qui avait satisfait une demande pour assister à l'Assemblée générale de la Fédération de pêche des Deux-Sèvres et qui nous a fait une intervention de premier ordre. Tout en s'en prenant un député que je nommerai pas, mais qui est reparti des poches pleines.
Ça vous a marqué, ça.
Ah oui, ça m'a marqué. Et vous m'avez aidé à lui remonter des bretelles aussi. Dans les réchauffements des eaux, c'est vrai que c'est très important, on se rend compte, parce qu'on assiste à une mutation du poisson. Les brochets, qui sont des poissons de deuxième catégorie, qui sont dans une eau aujourd'hui qui s'est réchauffée, qui est plus ou moins oxygéné. Il n'y a pas de barrière entre les premières catégories salmonidées, qui sont les têtes de bassin avec une eau à 17 degrés à peu près, bien oxygénée, et la deuxième catégorie, eau qui est stagnante avec un réchauffement certain. Si bien que les brochets qui ne trouvent plus trop leur bonheur en deuxième catégorie mutent en première catégorie parce qu'ils retrouvent de l'oxygène. Du poisson blanc qu'on n'avait pas autrefois parce que la reproduction ne se produisait pas en fonction de la chaleur de l'eau. Donc, automatiquement, on va vers une migration de nos poissons. Donc, c'est une conséquence de ce réchauffement de la climatologie.
Oui, merci. Je voulais en parler après, mais vous avez bien fait d'en parler, ça me fera gagner du temps. C'est vrai que l'augmentation de température de l'eau induit automatiquement, physiquement, pardon, une diminution du pourcentage d'oxygène. Hein. On perd à peu près 5% d'oxygène pour 2 à 3 degrés d'augmentation de température. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, les espèces ne vont pas muter, mais vont migrer. Et on va retrouver des espèces de poissons. On ne retrouvera pas, plus exactement, les espèces de poissons qui ont besoin, d'une eau oxygénée comme on la connaît à 17 degrés en absence de, à 17 degrés de température, en absence de toute pollution. Donc ce phénomène a été observé aussi ailleurs. Alors dans les estuaires, c'est encore pire parce qu'il y a aussi l'effet de la salinité à cause de l'élévation au niveau de la mer, qui contribue aussi à la migration des espèces. Mais on y reviendra tout à l'heure sur les effets du changement climatique. Merci, Abad.
Bonjour tout le monde. Donc, mon nom, c'est Abad Chabi. Donc, je travaille à il faut s'approcher. J'ai horreur de ça. Mais bon. Mon nom, c'est Abad Chabi. Donc, je travaille à l'INRA, comme Bernard l'avait signalé. Je suis à cheval entre Lusignan, une fois tous les 15 jours, mais aussi basé beaucoup à Paris ou peut-être nulle part. Bon, ce que je vous ai préparé, donc un petit peu, peut-être c'est mal compréhension de ma part, mais j'essaie un petit peu de faire relier la question sécheresse et l'agriculture, mais aussi dans le contexte global dont on parle actuellement, c'est le changement climatique que Bernard il avait signalé. Et donc, bien entendu, je vais rester dans ce truc parce que c'est complètement inapproprié de sortir de ce contexte, d'ailleurs, qui devient quand même une priorité de tout le monde, voire même de simples citoyens dans la rue. Et donc, je commence par ça. Donc, vous avez déjà entendu, c'est le rapport GIAC d'évaluation qui sont publiés depuis un certain nombre d'années. Donc, vous avez ici 2011, 2013, 2014. Et il s'agit pratiquement des rapports d'évaluer les progrès accomplis par pour réaliser les objectifs qui ont été maintenus depuis toutes les conventions internationales, c'est-à-dire à maintenir la température au-dessus de 2 degrés. Et le dernier rapport, il était beaucoup plus agressif, on peut dire ça, c'est qu'il faut vraiment aller même pas 2 degrés, mais aussi 1,5 degré. Donc on parle ici d'un demi-degré, mais ce demi-degré, il a d'après la modélisation et les simulations de modèles, il a quand même un effet dévastateur sur l'écosystème. Si jamais il n'est rien, donc on peut y tomber dans des situations irréversibles, à la fois pour l'ensemble de l'écosystème lui-même, non seulement pour les sols et pour l'agriculture, mais aussi pour l'eau. Et Bernard, il connaît très bien le sujet. Donc voilà, c'est un fait, donc il faut le faire. Donc c'est plus facile de dire qu'à faire. Et si on regarde un peu le contexte actuel des choses, donc toujours il y a une augmentation de CO2. Donc c'est-à-dire que j'ai intitulé ici pour les climats libéraux de la croissance. Donc qu'il faut faire. Donc c'est un compromis entre la croissance et le CO2. Donc on continue à relarguer des taux colossaux de CO2. Donc comme si c'est rien passé. Donc on fait des grosses cérémonies, mais après 2 jours plus tard, on continue business as usual. Ce qui fait, c'est que c'est la réalité. Donc c'est, on continue quand même à relarguer. Donc vous voyez un peu la pétition qui a été signalée ou publiée dernièrement dans la Libération d'un certain nombre de pays européens, mais aussi qui continue à être maintenant le flagship pour les élections européennes, justement pour aller devant la diminution du hulot. Donc peut-être il y a un effet avec ça, j'en sais rien, mais quand même il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Donc c'est-à-dire tout ce qui était fait, une mise à garde qui devra être prise au sérieux et vraiment, vraiment au sérieux, parce que peut-être la marge de manœuvre qu'on a maintenant, ça devient rétrécie, pas pour nous, mais pour les générations à venir. Et tout simplement, donc vous voyez ça, donc ça c'est vraiment, ça, ce sont des constats, c'est des observations qui ont été faites, et on voit ici à peu près l'augmentation de CO2, mais aussi on est à toucher vraiment les 400 ppm. Et ce qui est redoutable, c'est que le méthane ici, il a triplé dans les derniers 15-20 ans, et ce qui est complètement dévastateur. Le taux de l'effet de gaz à effet de serre de méthane, il est beaucoup plus redoutable que de CO2. Et donc, du coup, on a les océans qui jouent ce qu'on appelle l'effet tampon. On a à peu près 50% d'écosystèmes qui est absorbé par le CO2 qu'on relargue dans les systèmes. Mais jusqu'à quand? Donc jusqu'à quand? À un moment donné, ça va s'arrêter. Les océans ne vont plus peut-être jouer ce rôle. Et après, on est complètement dans les flous. Et donc, il faut encore une fois faire quelque chose, il faut adapter, et il faut quand même prendre en considération ces effets tampons des écosystèmes qui absorbent les 50% du carbone qu'on relargue dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'il y avait un gros buzz là dernièrement, donc c'est très important. Donc il y avait l'initiative qui était lancée en 2015 autour de l'initiative 4 pour 1000 par Stéphane Le Foll, à la fois pour, si je peux résumer sans exagérer, il ne reste pas beaucoup de marge de manœuvre, comme je dis, pour reculer. Il faut développer l'industrialisation, il faut développer la technologie pour réduire, mais en même temps, là, pour le moment, on est dans un effet embryon, on n'a pas quelque chose vraiment, et le seul moyen qui nous reste, c'est les écosystèmes eux-mêmes et le sol pour réduire ça. Donc, il y avait cette initiative qui était lancée. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de pays qui l'ont signé. Il a même reçu dernièrement un prix par les Nations Unies comme initiative qui va aider à réduire ces gaz à effet de serre. Pas tout à fait, mais c'est-à-dire cette initiative, c'est encore une fois, c'est bien, mais c'est très difficile à le mettre en œuvre parce que augmenter le carbone dans le sol, c'est pas en claquant les doigts. Il faut changer complètement ou radicalement notre manière de faire. Et donc, le principe de cette 4 pour 1000, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire, il y a, c'est le 8.9, c'est ce qu'on appelle ce qui est relargué comme les gaz à effet de serre, le fossile. Et si on fait le tout au long de profil, c'est-à-dire le stock, tout au mètre, à 1 mètre, 1 mètre 50 de front, donc on a 2400 gigatonnes. Et quand je fais un ratio de 8 sur les 2 grammes, c'est-à-dire le 4 pour 1000, c'est ce que on devra stocker sous forme de matière organique pour réduire l'effet de gaz à effet de serre. Ça représente à peu près 16%, c'est-à-dire ce qui est émis à l'échelle européenne. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Donc, il faut faire quelque chose, parce que la réalité, c'est ça. Bernard Lamonté, c'est récemment, c'est un papier qui vient de sortir en 2018, et on voit quand même qu'il y a la température, il a glingué, donc on est à peu près à plus 9, plus à peu près à 1 degré de plus par rapport à notre standard ou ce qu'on appelle la période de référence ici. Donc c'est pas rigolo. Et cette augmentation de température en augmentant, elle génère de ce qu'on appelle les effets ou les événements extrêmes. Et ça, c'est un fait normal mondial. C'est pas qu'en France. Même si je peux focaliser par exemple en France. Bon, là vous voyez. Donc cette année, c'est en 2018. Vous voyez la nuit 30, 39, 25. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet tropical. C'est comme ça que s'explique l'effet de la sécheresse ou les événements extrêmes, c'est-à-dire une fois la température de nuit ne baisse pas. Et donc, les modèles, à un moment donné, donc, ils n'avaient pas tort. Donc, ils sont pas. Il y a beaucoup d'incertitudes sur les modèles, mais quand même, on approche à une réalité. Ça, ce sont des modèles qui ont été faits à la base des données 61-90. Et ce qui nous donne ces modèles-là, c'est quand même une simulation de 16 modèles publié dans des journaux très sérieux, c'est qu'on était à peu près à 2 jours des événements, c'est-à-dire 2 jours chauds dans l'année qui ressemblaient à l'été 2003. Et donc, plus on y va 2021 ou jusqu'à 2100, donc on peut arriver à 42 jours, c'est-à-dire, imaginez-vous, 2003 en 42 jours. C'est infernal, c'est l'enfer. Donc, c'est peut-être un scénario extrême, mais quand même, on a bougé. On est à peu près à 5 jours actuellement et on risque d'aller plus loin. Donc ça, qui va souffrir le plus? C'est nous, c'est cette région. C'est cette région. On est le laboratoire à ciel ouvert. La région Poitou-Charentes est le laboratoire à ciel ouvert et la Nouvelle-Aquitaine, il est à ciel ouvert. Avec, bien entendu, tous les sud de l'Espagne, sud méditerranéen, parce que c'est cette partie-là que vous voyez qui va être. Donc, eux, ça va... Ils vont peut-être cultiver la vigne, je ne sais pas, en Finlande, ou avoir le champagne, je ne sais pas, en Scandinave, mais quand même, ça va pousser. Mais là, dans les années à venir, c'est ça ce qui va faire effet. Et donc, tous ces bouleversements et l'enjeu, ce qu'on appelle les événements extrêmes, la sécheresse, on connaît très bien ce qui s'est passé en 2003, inutile de retourner là, il a, avec des dégâts sur l'agriculture, des vues humaines, mais aussi en Russie, aux États-Unis, et tout ça, c'est avec des périodes, c'est-à-dire ces événements qu'on voyait se répéter à tous les 100 ans ou tous les 50 ans, on les voit très raccourcis, c'est-à-dire dans les 10 ans, 5 ans, et voire même on va les voir tous les deux ans. Donc, quelle infrastructure, quel écosystème pourra faire face à ça? Nous ne sommes pas aujourd'hui préparés pour faire ça, et notamment pour nourrir. Donc, pour la résistance de l'agriculture, n'est pas tout à fait au point. Donc, là, je reviens à la question qui m'a été posée. Donc, la sécheresse, eh ben, comment la définir? Bernard, il avait dit, soit je rase mon jardin. Il y avait un ministre en Allemagne, que je connais, c'était allemande, qui disait, je ne vois pas de changement climatique, j'ai mon jardin, il fait toujours froid. Et donc c'est à peu près c'est cette définition qu'on voit, c'est-à-dire une fois on a la combinaison entre un manque de précipitation, mais aussi la température, c'est ce qui génère un peu ce qu'on appelle les événements de sécheresse. Et c'est ça ce qui était redoutable ou un facteur déclencheur dans la sécheresse 2003. Et après, ces événements, bien entendu, ils ne sont pas de la même façon. Les régions, il y a une région qui répond beaucoup plus que l'autre, d'autres régions moins. Et donc, c'est ça qui rend un peu aussi la modélisation de ces de projections un peu difficiles. Donc ça, c'est ce que je viens de dire un petit peu. Donc on a beaucoup des incertitudes parce que les régions ne vont pas répondre d'une manière ou d'une autre similaire. Alors, donc quel impact sur l'agriculture? Parce que quand même, s'il faut nourrir les gens, il faut aussi nourrir, mais aussi maintenir l'écosystème, le fonctionnement d'écosystème. Donc ça, ce sont des travaux que j'ai conduits dans la région Poitou-Charentes, ici, normalement, sur l'impact de la sécheresse. Ce sont des travaux de thèse ou des post-docs. Et sur l'effet de la sécheresse, à la fois sur la production, sur la minéralisation de la matière organique, sur l'effet des micro-organismes, c'est tout un bouleversement. Donc c'est un écosystème qui se met en place pour faire face à cette sécheresse. Et le problème, la multiplication de sécheresse à des courtes durées, il ne laisse pas le temps du système de s'adapter. Et c'est ça ce qui crée des situations irréversibles. Donc je ne vais pas rentrer dans des processus, c'est un peu, ça va prendre beaucoup de temps, mais au moins vous dire, c'est l'ensemble de sa totalité, de ses interactions plante-sol qu'il faut mettre en garde pour les simulations de modèles. Autre problème, là on le voit, ça c'est aussi c'est un problème mondial, c'est que qui dit sécheresse dit des ravageurs. À peu près, on a du mal, encore une fois, à estimer l'importance de ces ravageurs, à peu près dans les dégâts qu'ils causent. On est autour de 6% par rapport aux récoltes. Je n'ajoute pas les sécheresses, je n'ajoute pas l'effet combiné. Et avec les simulations ou les changements climatiques à venir, on va augmenter à 10-15% de rot, c'est-à-dire ce qui va être complètement dévastateur pour les récoltes. Donc, on peut dire aujourd'hui, l'agriculture, elle est dans une situation un peu merdique, je m'excuse pour le terme. Donc, quelle action pour la science? Comment s'adapter? Comment y faire? Comment produire? Et donc, quand on parle beaucoup, nourrir la planète. Eh bien, il faut faire face à la nourriture, la sécurité alimentaire. Tout le monde utilise ce terme-là. Ce sont des modèles aussi, des projections qui disent, bon, voilà, ça, c'est les projections 2050. Ça, on doit y aller. Eh bien, on est loin du compte. On est à 0,9 à 1,6 au lieu de 2,4. C'est-à-dire si on veut nourrir tout le monde. Donc, on n'est pas complètement dans les choux. Mais par contre, la situation climatique, ça va engendrer beaucoup. Ça va engendrer la famille. On est à peu près à 3 millions de gens. C'est un citoyen sur 9 qui dort sans manger. Et la situation va devenir de plus en plus difficile. Et ne s'étonnez pas de grandes immigrations climatiques qui vont venir. Donc, personne n'est ici préparé pour aujourd'hui. Il n'y a pas que la guerre. Et donc, quelles solutions sont favorisées? Donc, renforcer les techniques de capture de CO2, c'est un enjeu un peu pervers parce que les industriels et les technologies, d'accord, on va développer quelque chose pour capter ce CO2, mais en même temps, avec l'intention, si on développe cette technologie, c'est-à-dire on va continuer à produire as usual. Donc, c'est un effet pervers qu'il faut faire. Même si cette situation de capture de CO2, elle est, comme je vous dis, elle est dans un état embryonnaire, pas aussi développé. L'autre projet, c'était renforcer la protection et la résilience. C'est le seul moyen qu'il nous reste. Je ne vous cache rien. C'est le seul moyen, c'est d'utiliser le sol. Ça ne va pas faire des miracles, mais en même temps, on pourra faire des choses. On avait fait une synthèse, j'avais fixé une synthèse. C'est que, justement, en jouant sur ces paramètres-là, on peut à la fois assurer la sécurité alimentaire, mais aussi réduire tout ce qu'on appelle les processus d'instabilité et les processus qui vont causer à l'immigration et autres. Et donc, l'autre affaire, c'est mieux gérer l'existant. Donc protéger et revitaliser ce qui existe déjà. Donc c'est très important. Je vais enchaîner, Bernard, oui. Et nécessité d'inventer des solutions autres. Un autre modèle économique pour y faire. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas continuer business as usual, on ne peut pas avoir des multitudes de choses et en même temps préserver l'écosystème lui-même. Donc, il faut changer ça et en plus, nécessité d'avoir des changements extrêmement profonds pour pouvoir y arriver. Et à la fin, bon, voilà, je vous laisse lire. S'il n'y a rien qui va se passer, eh ben, ça va être un peu le drame. Merci.
Bien, c'est bien un bad d'avoir abordé ce que je voulais faire après, mais dans le coup, je n'aurais pas à le faire. La question du changement climatique, je donnerai juste quelques impacts sur les ressources en eau que Frédéric, en accord avec moi, n'avait pas donné. Mais si vous avez des questions sur cette partie... Que veut dire qui concerne quand même plus l'aspect sol et agriculture et nourriture de la population. Allez-y pendant qu'on fait le changement d'ordinateur. C'est déjà fait. Oui, oui, trois questions.
Oui, enfin, c'est pas une question, c'est plus une constatation. Moi, j'habite à la campagne et puis je vois tous les jours ce qui se passe dans les champs et c'est toujours un désenchantement et un affligement. Et je me dis, quand est-ce qu'on accompagne ces gens et quand est-ce que les politiques comprennent que il faut vraiment y aller, quoi. Il faut enfoncer et puis voilà, je comprends pas.
Oui, alors comme il a dit Bernard très bien, nous, on est les scientifiques, on est là pour produire. Pas pour faire le projet de la connaissance et la mettre en œuvre de cette connaissance doit être par les politiciens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on reste dans le théorie, ce que vous avez présenté, s'il n'est pas accompagné, s'il n'est pas, il y avait une concertation, non, ça ne va pas se faire. Ce n'est pas dans mon derrière-bureau ou dans mon laboratoire que je vais faire ça tout seul. Il faut qu'il y ait quand même une vision collective, cohésente et qui pourra aider à tout le monde à participer à l'enjeu. Le stockage de carbone, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Et ben, l'agriculteur se pose la question, qu'est-ce que ça va me rapporter? Quel bénéfice je vais avoir pour stocker le carbone? Si ce n'est peut-être pour réduire les gaz à effet de serre. Mais quel est, pour lui, qu'est-ce que ça rapporte en termes de économiquement? Est-ce que, voilà, ça, ce sont des questions qu'il faut aborder. Donc, ce sont des dimensions qu'il faut dépasser.
Ok. Oui, mais on peut envoyer les questions sur ce sujet, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Alors, on est dans les temps.
Oui. Alors, donc, ma question, c'est... Il se trouve que j'avais assisté à une présentation de l'association Paysages in Marsillac avec Canet, que vous connaissez sans doute, qui promeut l'agroforesterie, qui est président de l'association française. Je ne sais pas quel est le terme exact d'agroforesterie. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se fait actuellement? Est-ce que c'est juste épidermique? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de... Parce que justement, il avait présenté un agriculteur qui était dans l'intensif avant et qui avait été en quelque sorte converti et qui avait justement vu ses rendements augmenter une fois qu'il avait appliqué des techniques d'agroforesterie après 2 ans d'essai.
Alors, c'est vrai, il faut toujours... Bon, excusez-moi. D'abord, il faut insister sur la production régionale. Pardon. Il faut qu'on capitalise quand même ce qui est dans les terroirs, on peut dire, ou de la région elle-même. Donc chaque région, la région Poitou-Charentes, c'est complètement différent d'une région d'Avignon, région dans le Grand Nord. Donc il y a des potentiels qu'il faut les mobiliser. Et donc cette mobilisation des potentiels in situ ne sont pas très très bien mises en œuvre. Deuxième des choses, c'est que c'est très bien. Donc on change, c'est la politique agricole commune, on change tous les 4 matins, tous les 5 matins. Mais le changement parfois n'accompagne pas forcément la personne sur le terrain et n'accompagne pas parfois aussi le système lui-même. Parce que le système quand même, il y a une inertie du système, il ne répond pas. Les politiciens à Berlin, à Bruxelles, quand ils décident quelque chose, bon, ils peuvent les décider, mais le système leur va répondre dans 10-15 ans. Donc il y a ce qu'on appelle un mismatch entre la politique et ce que la nature lui-même offre. Et donc tout ça, il faut l'adapter par rapport à chaque région. Donc, il n'y a pas une seule solution, il y a multi-solutions et il n'y a pas ce qu'on appelle un clé magique. Il y a des clés magiques et ces clés magiques, il faut vraiment l'adapter l'un à l'autre. Et c'est ça ce qui nous porte. Le problème de régionalisation, c'est un fondamental. C'est ça, on peut faire de gros modèles à l'échelle planétaire, c'est très bien, mais ce n'est pas ça ce qu'on a besoin. On n'a plus besoin de la régionalisation, c'est ce qu'on fait ici à la région du niveau de l'Aquitaine, c'est extrêmement très bien, parce que je trouve très bien à mon avis, parce que ça permet au moins de voir. Et après, engendrer, emboîter ces ensembles de connaissances, c'est ça ce qu'il faut faire. Donc.
Autre question, madame, avec une réponse rapide, s'il te plaît, madame.
Oui, moi je fais le même constat que la dame tout à l'heure, c'est-à-dire que je m'étonne toujours que les agriculteurs ne soient pas plus avertis par rapport à tous ces changements, parce que j'habite une zone bocagère et je vois disparaître quantité de haies dès le mois de septembre. Les arbres ont encore été coupés en grand nombre, des haies entières sont arasées, des chemins communaux pris en même temps dans le champ, mais des quantités qui me semblent moins navrantes d'abord pour le paysage, même si on se contentait que de ça. Mais je me dis, je ne comprends pas, leur terre est sèche et ils enlèvent ce qui pourrait garder encore de l'humidité à leur sol, puisqu'il n'y a plus d'arbres pour garder l'humidité. Et comment se fait-il qu'ils ne soient pas plus informés ?
Eh bien, madame, vous avez fait un excellent constat. Parce que normalement, pour l'histoire de 4 pour 1000 initiatives, là, le 4 000 lancé par le ministère et par au niveau national, eh bien, ces haies qui sont coupées, elles ne sont pas comptabilisées, elles jouent un rôle. Et en même temps, parfois, parce que l'agriculteur aussi, il est encouragé par les subventions qu'on lui donne. Plus il a le plus de terrain, plus il va couper. C'est exactement ce qui s'est passé avec les prairies. Après, à un moment donné, la prairie, elle a disparu à 30% dans le temps qu'on est. Les derniers 30 ans, en région Poitou-Charentes, il a disparu 30% de la superficie. Dont on ne connaît pas exactement les conséquences à long terme au niveau écologique, au niveau des cycles de stockage. Et pourquoi ça a disparu ? À cause des subventions, on a pénalisé la personne qui avait une prairie, on ne lui donnait rien. Donc quand on convertit ça au blé, donc il a une subvention. Là maintenant, au niveau de l'EPAC, on a fait une marche arrière, on a dit « Ah oui, il faut garder votre prairie pendant 3 ans, vous allez recevoir quelque chose ». Donc il y a quand même, on joue avec le monnaie. Et c'est ça ce qui engendre des cascades catastrophiques.
Ok, madame. Alors, la question, est-ce que l'INRA, dans ses contacts avec la FNSEA notamment, transmet des messages de ce type-là?
Alors, je vais.
C'est enregistré quand même. Hein. Comme j'ai dit, bon, Bernard, il l'a bien exprimé. Nous, on est scientifiques. On dit les choses. Donc, on est des scientifiques à dire des choses telles qu'elles sont, telles qu'on les conçoit, tant qu'on les découvre. Après, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Donc, ça, c'est une autre phase. Je ne me permets pas. Bon, je peux cracher dans la soupe, bien entendu. Mais après, à un moment donné, C'est aux politiciens de prendre ces décisions. Donc, voilà. Donc, soit il faut que je change de casquette.
Une autre question, Stéphane. Oui, enfin, c'était pas une question. Donc, je suis un peu gêné parce que je suis là, mais j'ai envie de répondre et puis de répondre de manière un peu personnelle sur l'agriculture. Donc, je connais très bien quelqu'un qui essaie de faire autrement, qui est dans un autre département, qui est de ma famille, qui est très proche. Il fait tout seul. Donc Robert Rochaud a parlé de la FNSEA, de la Chambre d'agriculture. Donc il fait tout seul. Donc il s'est lancé, alors pour faire très simple, hein, il a repris l'exploitation de nos parents. Mon père faisait comme tout le monde dans les années 70. Et alors je suis désolé, il ne fait pas encore de l'agriculture biologique, mais il fait une agriculture de conservation il ne laboure plus depuis une vingtaine d'années. Mais il a fait tout seul. Il a fait tout seul, et y compris pour acheter du blé non enrobé de sorgho, de gaucho, pardon. Parce que contrairement à ce qu'on pense, hein, le gaucho, vous ne le trouvez pas que sur le maïs, mais vous allez acheter un sac de blé pour le semer dans votre jardin. Il est systématiquement enrobé de gaucho. Donc c'est toute cette démarche-là, il l'a fait tout seul, et effectivement, il constate, donc il n'irrigue pas. Et je prends un simple exemple. Hein, l'année dernière, année assez difficile dans le nord de l'Indre, il a eu le. Alors, il multiplie les. Donc, il fait des choses classiques, mais aussi du sorgho, du lin, etc. etc. Sur le blé, il multiplie les variétés de blé, ce qui fait que lorsque vous avez une variété qui subit un petit problème d'insectes, les 4 ou 5 autres qui sont là vont compenser. Donc c'est tout, mais ça se fait tout seul. Ça se fait vraiment tout seul. Et ce qu'il faut savoir, moi je connais très bien les agriculteurs de mon village. Ben malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire pareil parce qu'ils n'ont pas le. Enfin, c'est pas méchant ce que je dis, mais moi j'ai joué au foot avec eux. Ben, ils étaient peut-être bons au foot, mais ils ne sont pas agronomes et ils font ce qu'on leur dit de faire.
Ah, bah, attends. Ah, bah, deux secondes. On va revenir après sur ce débat. Je veux juste, pour alimenter. Non, mais tu le diras, reste là. Pour alimenter le débat, je veux mettre deux diapos supplémentaires sur la disponibilité en eau. Qui est lié quand même au problème agricole, notamment. Puisque on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Alors là, je prends ma casquette président du conseil scientifique de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui couvre l'ensemble du Grand Sud-Ouest, c'est-à-dire une grande partie de la Nouvelle-Aquitaine, pas cette zone-là, hein, mais une grande partie quand même, l'Occitanie et puis un petit bout d'Auvergne. Et je préside donc le conseil scientifique de cette agence et nous avons fait des prévisions à l'échelle 2050 de la disponibilité en eau qui va aussi avec évidemment la sécheresse des sols. Et en fait, ce qu'on observe ou ce que nous permet d'observer les modèles hydroclimatologiques que nous avons utilisés, c'est que... il devrait y avoir sur le bassin d'Ourgaronne. Alors, je vous rappelle que le bassin d'Ourgaronne couvre à peu près un peu plus du double du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Hein. Donc, la diminution des précipitations, même si on n'est pas très très sûr de ça d'après nos spécialistes toulousains, la diminution des durées d'enneigement et de persistance du stock neigeux, et surtout, l'augmentation de l'évapotranspiration liée à l'augmentation de la température, va conduire bien sûr à une augmentation de la sécheresse des sols, va conduire à une tendance à la baisse des recharges des nappes. Et ce qu'on a estimé, c'est ça. C'est qu'on va avoir une forte diminution des débits des cours d'eau en région de moins 20 à moins 40% d'ici 2050, avec de très fortes modifications des régimes hydrologiques, ce qui nous fait penser, parce qu'on nous a demandé d'estimer le chiffre d'ailleurs que maintenant tous les présidents de région de la zone concernée, que ce soit Nouvelle-Aquitaine ou Occitanie, utilisent. Donc il fallait quand même qu'on ait une certaine un minimum de certitude sur ce chiffre. On pense que sur le bassin d'Ourgaronne, il va nous manquer pendant la période estivale en 2050 1 200 000 000 de mètres cubes d'eau douce pour les différents usages, c'est-à-dire 50% des besoins pendant cette même période estivale sur l'ensemble du bassin d'Ourgaronne, qui, je vous rappelle, représente grande partie de Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et un petit bout de l'Auvergne. Ce 50%, on peut le reporter aussi sur la Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire qu'en 2050, on montera de 50% d'eau de surface en période estivale par rapport à nos besoins actuels si nos usages ne changent pas. C'est pour ça que j'ai arrêté le débat, pour qu'on prenne en compte aussi cette donnée au niveau du débat qui va suivre. Autre donnée qu'on peut prendre en compte aussi, c'est la qualité de l'eau. Est-ce que la qualité de l'eau... Alors après, c'est un peu pour faire la transition avec ce que va nous dire tout à l'heure Stéphane. Est-ce que la qualité de l'eau subira un impact du changement climatique par le biais de l'augmentation de la température? Oui, on aura des impacts certains. On a parlé avec le président Lacroix tout à l'heure de la diminution du taux d'oxygène avec des migrations d'espèces, mais on aura aussi une augmentation des espèces invasives, qu'elles soient végétales ou bactériennes, comme les cyanobactéries. Je vous rappelle qu'on a fermé 5 baignades en Poitou-Charentes à cause des cyanobactéries cet été, pour éviter que la population qui se baigne, que les baigneurs s'empoisonnent avec les toxines émanant de ce développement algal. On aura aussi des modifications, mais là c'est un petit peu plus long à expliquer, sur tous les processus bio-géochimiques qui régulent la physicochimie des eaux, y compris la physicochimie naturelle. En plus, on aura peu de débit, moins de débit. Donc si on rejette les mêmes pollutions, bien sûr, on va avoir un effet de dilution atténué et un effet d'auto-épuration également atténué. Donc, on en souffrira, nous, humains, dans nos usages, mais la biodiversité, probablement, c'est la biodiversité qui en souffrira le plus, notamment parce que l'augmentation de la température aura aussi des effets sur la physiologie d'espèces, sur la quantité de polluants ingérés à cause de l'hyperventilation provoquée par la diminution du taux d'oxygène, mais aussi sur les mécanismes intrinsèques de la toxicité. Donc, pardon à vous deux, je voulais juste ajouter cette problématique eau, en plus de la problématique sol, qui nous attend en 2050, notamment sur les aspects nourriture, pour reprendre le débat, tout de suite, où il en était, avant de finir l'après-midi sur la problématique eau potable. Donc, pardon d'avoir interrompu le débat, on peut le reprendre. Madame, il y a quelqu'un qui voulait poser une question.
Je voulais vous demander, est-ce que la consommation de la viande, est-ce que, enfin, la diminution, elle aura un impact important sur la sécurité alimentaire, là, comme ce que vous parliez ?
La consommation, bon, l'élevage en tout court, donc l'élevage, il ne faut pas le prendre, l'élevage, bon, ça a été considéré, il y a des tensions sur la partie de l'élevage, la contribution de l'élevage dans le méthane, dans l'émission de méthane, donc notamment à la fois, c'est-à-dire l'élevage dans les fermes, la contribution, c'est ce qu'on appelle l'élevage intensif. Il y a certes une contribution, mais il n'y a pas que ça. La contribution des animaux, si je ne me trompe pas, donc il reste quand même un peu minime par rapport à l'industrie totale, c'est-à-dire l'industrie totale de la viande. Il faut prendre l'industrie totale de la viande ou de l'élevage, qui est quand même un gros émetteur. Il y avait un article qui était publié, je pense, dans Le Monde, il y a 2-3 mois, où ils ont vraiment vu toute la chaîne et ils ont calculé à cet effet qu'il y a quand même effectivement il y a une contribution des gaz à effet de serre qui vient de la production de la viande. Donc oui, je peux dire qu'il y a, c'est la même chose que pour les gaz à effet de serre par rapport au nitrate qu'on ajoute, la fertilisation, on n'a pas d'autres alternatives. Oui, il y a d'autres alternatives, mais ça dépend de ce que je vous dis, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'il faut qu'on change notre mode de consommation, mode de vie, et pour aller dans un truc beaucoup plus raisonnable.
Oui, alors effectivement, là, ça pourrait reprendre la conclusion générale qu'on aura tout à l'heure, c'est comment atténuer ces phénomènes. On en reparle ensuite. Il y avait une question derrière, je crois, non ?
Deux compléments sur l'inertie agricole et politique. Dans des salles de classe de lycée agricole, à Angoulême par exemple, où j'étais il y a quelque temps, eh bien, il y a sur un côté de la salle des revues à disposition gratuite des étudiants, avec des super photos de tracteurs John Deere et autres marques, de matériel d'irrigation. Et inconsciemment, c'est quand même mettre dans la tête des jeunes en formation agricole pour être agriculteur, pour être technicien, pseudo-conseiller agricole, un modèle agricole. Deuxième exemple d'inertie. Je suis allé relativement discrètement, il y a 4-5 ans, à l'Assemblée Générale des Irrigants de la Vienne. C'était au Palais du Futuroscope. 400 personnes. Beaucoup de 4-4, tant mieux pour eux. Mais quand on voit autour du Palais des Congrès les stands du Crédit Agricole et d'autres banques, de Groupama et d'autres, les semenciers, les marchands de pesticides, et dehors le matériel d'irrigation et de travail de la terre, on sent que les gars, eh ben, ça leur fait briller un petit peu les yeux et ils ont envie de continuer dans ce système-là. Donc après, quand ils sont endettés pour 5 ans, puisque le matériel est amorti sur 5 ans, ils sont quand même un peu dans ce système-là. Et puis il y a la pression des voisins qui disent « Attends, tu ne vas pas remettre en question le système dans lequel on est, parce que moi, on va passer pour des gens un peu bizarres si tu dis que tu veux passer au bio. » Il y a des agriculteurs qui ont envie de passer en bio, mais ils ne le font pas par la pression des voisins. Ma question, c'est est-ce que vous avez, dans les premières photos qui ont été présentées, des cartes, vous avez montré des cartes de des degrés de manque d'eau au niveau régional. Est-ce que vous avez des cartes qui superposent avec les consommations d'eau ou les prélèvements en eau, par exemple, dans les bassins essentiellement céréaliers,
alors,
etc.
C'est ce qu'on appelle, alors on l'a fait au niveau de l'ensemble du bassin d'Eau-Garonne, ce qu'on appelle les zones à risque en termes d'impact du changement climatique sur la disponibilité de la ressource en eau. Donc on a croisé, effectivement, vous avez raison de le préciser comme ça, on a croisé les données climatiques des différents bassins, sous-bassins, avec les données actuelles concernant soit, alors ça dépend du risque que l'on cherche, hein, soit le taux de prélèvement, enfin les niveaux de prélèvement, si on cherche le risque de disponibilité, soit par exemple l'état chimique ou l'état écologique du cours d'eau, si on cherche le risque vis-à-vis de l'impact sur la qualité des cours d'eau. Et on a établi ainsi, elles sont publiées d'ailleurs sur le site de l'agence, je ne sais pas si Loire-Bretagne a fait la même chose, Rhône-Méditerranée-Corse, mais qui nous concerne moins, hein, puisque c'est le Grand Sud-Est, a fait la même chose. Loire-Bretagne, peut-être, ou sont en train de le faire. Ces cartes sont publiées, sont disponibles sur les sites. Et effectivement, on peut voir, suivant le risque qu'on va chercher, c'est-à-dire, par exemple, prélèvement, disponibilité en eau, on peut voir dans une grande région quelles sont les zones qui sont particulièrement à risque et celles qui le sont un petit peu moins. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de zone à risque. Vous comprenez bien pourquoi. On n'a pas voulu prendre le risque de dire ça, justement. Hein, et on n'a mis que deux échelles, c'est-à-dire zone à risque et zone moins risquée. Donc ces cartes existent, oui. Je ne les ai pas montrées, je ne les ai pas là. Ou alors il me faut un petit peu de temps pour les chercher dans mon propre ordinateur. Mais on pourra prendre le temps après, si vous voulez. Mais ces cartes existent, c'est vrai. Juste pour aller dans le sens aussi de ce que vous disiez tout à l'heure, le 1 200 000 000 de mètres cubes qui va nous manquer représente à peu près le 1 000 000 000 de mètres cubes dont l'agriculture a besoin pendant la période estivale sur tout le bassin d'Eau-Garonne, hein, je précise bien la zone, pour l'irrigation. Ça veut dire que si toutes les petites solutions d'adaptation, et je sais que vous allez me rejoindre là-dessus, qui consistent à faire des économies d'eau potable, à faire des économies sur les réseaux, je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, c'est vraiment bien de les faire, ça représente peanuts par rapport à ce qu'utilise l'irrigation, je vais me faire attaquer, mais peu importe, je suis habitué, dans la période estivale, sur notre bassin d'Eau-Garonne, donc notamment sur la Nouvelle-Aquitaine. Si on veut ne pas toucher les débits de crise ou même les débits d'objectifs d'étiage des cours d'eau sans lesquels les écosystèmes ne peuvent plus vivre, si on ne veut pas toucher à ces débits-là, on ne trouvera pas la solution pour compenser le 1 200 000 000 de mètres cubes qui va nous manquer à cause des pertes dues au changement climatique. Donc, soit il faudra sacrifier nos cours d'eau et les écosystèmes, soit il faudra arrêter d'irriguer ou diminuer très fortement l'irrigation.
C'est juste, si vous me permettez, je vais juste ajouter sur la question de bio. Et là, je vais faire une articulation par rapport à la consommation de bio. Donc, il faut choisir. Bio, elle n'est pas tout à fait saine. Je vais vous dire pourquoi. C'est un point de vue environnemental. Donc, pour la production d'un kilo, par exemple, de brocoli, il faut 10 litres et 10 litres d'eau. Il faut 10 litres et 10 litres d'eau. Et donc, voilà, je ne parle pas de la fertilisation azotée, parce que quand même, il est très gourmand en fertilisant. Et donc, que faire d'un point de vue environnemental? Donc, il y a la fertilisation azotée avec tous les effets de gaz à effet de serre de N2O, et il y a la question d'eau, de la consommation d'eau. En même temps, on a la viande. Donc, il faut devenir vegan, il faut devenir quoi, quel compromis il faut prendre. Et c'est pourquoi, c'est tout dépend. Je ne dis pas que l'agriculture bio, il est mauvaise, mais tout dépend du degré du marché qu'on cible. Si on cible un grand marché, donc il faut vraiment voir voilà, les coûts derrière et les coûts environnementaux et les coûts sur le système et la sustainabilité du système lui-même.
Ok, alors maintenant, si vous voulez bien, on reprendra un petit bout de débat à la fin. Si on va focaliser un peu plus sur l'eau potable. Il y a peut-être pas mal de spectateurs aujourd'hui qui sont venus pour cette question d'eau potable. Stéphane Depont, le directeur du service eau assainissement du Grand Poitiers, va nous faire une présentation de quelques chiffres avant de monter ce débat.
Alors, l'eau potable, effectivement, vous avez fait une bonne transition avant. Si on parle chiffres, les 130 000 habitants de Grand Poitiers, 13 communes sur lesquelles la direction assainissement exploite l'eau potable et donc distribue de l'eau potable, c'est une consommation qui est aux alentours de 10 millions de mètres cubes par an. Vous voyez, 10 millions de mètres cubes comparé aux autres chiffres. Donc, quand la question m'a été posée, la sécheresse, l'intervention d'un producteur d'eau potable au niveau de la sécheresse est, à mon sens, sur deux points. Un, sur la partie ressources, donc protection de la ressource, aussi bien en termes de quantité et lié à la qualité, on le verra. Ça, c'est le premier point que j'expliquerai. Et puis la deuxième partie, c'est effectivement réduire les fuites. Donc plus on a effectivement un réseau qui emmène toute l'eau qui est captée dans les captages chez vous, mieux c'est. Sachant qu'effectivement, il faut l'avoir en tête, c'est pas ça qui va faire gagner des milliers. On gagne des mètres cubes, certes, mais en tout cas, il faut montrer l'exemple, je pense. Donc là, je suis reparti. Vous voyez, on a sorti les chiffres du 8 octobre. Donc la première partie, je vais vous parler de ce que l'on fait sur la ressource. Donc le bilan à Poitiers. Donc vous voyez, hein, le bilan des précipitations au 8 octobre était celui-ci, avec très peu de précipitations en septembre et en octobre. Grosso modo, jusqu'en juin, et ça a déjà été dit, des précipitations importantes qui ont permis aux nappes de se recharger, mais déjà un mois de juillet en dessous des 40 mm, un mois d'août et surtout un mois de septembre et un mois d'octobre qui sont très très secs. Ça, c'est le constat donc des précipitations. À Poitiers, alors avant d'aller là... les ressources en eau potable, où sont-elles situées sur Grand Poitiers? Très simplement, on a des ressources au nord, sous la forêt de Montamisé, avec plusieurs captages. Vous connaissez sûrement Sarzec, Charassé, Le Peu sur Saint-Georges-des-Baillargeaux, un captage à Fontaine aussi, qui est à la limite de la commune de Saint-Georges et puis de Chasseneuil. Donc tous ces captages captent dans un aquifère qui est énorme, grosso modo entre Clain et Vienne, donc un gros aquifère, avec l'avantage au niveau de la qualité d'être globalement protégé par la forêt de Moulière. Donc on a ces ressources, je dirais, importantes en quantité et de bonne qualité au nord de l'agglomération. Donc ça, c'est une grosse partie de nos captages. Et puis au sud, on a des captages qui sont plus fragiles. Donc un captage dans le Clain à La Varenne, sur la commune de Saint-Benoît. Donc c'est le seul captage en rivière sur l'agglo de Poitiers. Il y a deux captages en rivière dans le département de la Vienne. Châtellerault en a un dans la Vienne. Et puis nous en avons un dans le Clain. Sinon, tous les autres captages sont en dehors des cours d'eau. Un second captage, vous entendez sûrement beaucoup parler, c'est le captage de Fleury, donc qui est une nappe du Dogger sur les communes de Lavosseau et Benassé, à 20-25 km au sud de Poitiers. Et puis on a un autre captage dans la vallée de l'Auzance, à Verneuil, qui est un captage un peu de même type que ceux du sud, donc en vallée, peu profond et sensible, aussi bien d'un point de vue qualité que quantité. Donc voilà, on récupère l'eau. Pour faire simple, on a globalement assez d'eau pour alimenter les pois de vin, assez d'eau de bonne qualité. La difficulté, c'est qu'on a du mal à alimenter les pois de vin du sud avec l'eau qui arrive du nord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, notre réseau de distribution ne nous permet pas, si nous devions le faire, abandonner ou ne pas avoir recours aux ressources du sud que sont le Clain, que sont Fleury et puis que sont Verneuil, où il faudrait grossir les tuyaux pour amener plus d'eau vers le sud de l'agglomération. Donc on a besoin de ces ressources du sud. Et donc ces ressources du sud, c'est celles que l'on suit de très près, et notamment le Clain. Donc là, vous voyez le Clain, donc vous en avez sûrement entendu parler. Dans la presse cet été, vous avez, je vous ai mis sur ce document, vous avez une courbe bleue, une courbe violette et une courbe rouge. La courbe bleue, c'est le débit du Clain, les moyennes hautes. La courbe rouge, ce sont les moyennes basses. La courbe violette, ce sont les moyennes. Et puis la courbe noire, c'est l'année 2018. Donc vous voyez qu'en noir, si on prend le noir, au début, on était effectivement entre la moyenne et puis la supérieure. Et puis petit à petit, on est passé en dessous de la moyenne. Et puis là, on continue à ne pas augmenter. Et à un moment donné, on risque de recouper la plus basse. Un élément important qu'il faut quand même noter, c'est le 2 mètres cubes qui est ici. Donc certains le connaissent bien, hein, ce 2 mètres cubes par seconde. Donc sur le Clain, vous avez des débits, différents seuils, avec un premier seuil qui est à, alors de mémoire, 3,1 mètres cubes par seconde, un autre à 3, donc juste après, et puis un autre à 2. Et ces seuils sont des seuils que lorsqu'ils sont atteints, la préfète prend des arrêtés pour limiter les prélèvements dans le Clain. Donc le seuil de 2, pour faire très simple, c'est le seuil de coupure, donc d'arrêt total pour les prélèvements à usage agricole. C'est le débit de crise. C'est le débit de crise. Vous avez alerte qui est le premier, alerte renforcée et crise qui est le 2 mètres cubes. Donc on le voit, le 2 mètres cubes n'a jamais été franchi. Donc on est resté. Alors pourquoi il n'est pas franchi? Parce que contrairement à l'an dernier où il a été franchi très rapidement, c'est que là il y a eu des précipitations jusqu'en juin et l'irrigation globalement s'arrête, au 15 août. Donc comme l'an dernier, le Clain était bas très vite, l'irrigation dès le mois de juin a pris beaucoup, beaucoup d'eau. Donc le Clain est rapidement passé sous les 2 mètres cubes. Cette année, ça n'a pas été le cas. Juin a été relativement arrosé, ce qui a permis d'éviter beaucoup d'irrigation. Et ensuite, au mois d'août, l'irrigation s'est arrêtée, ce qui explique que le Clain est quand même resté au 2 mètres cubes. Donc, effectivement, il ne pleut pas, il reste à 2 mètres cubes par seconde. C'est un débit qui est mesuré au pont Saint-Cyprien. En revanche, la préfète a quand même pris un arrêté de restriction des usages assez tardivement, même après, la période d'irrigation, mais pour préserver l'état du Clain. Et là, alors après, c'est, la prise d'un arrêté par le maire pour l'usage de l'eau potable, c'est éminemment une décision politique. C'est une décision politique. Donc le maire de Poitiers, alors c'est le maire qui prend la décision de limiter, d'interdire ou de réduire les usages de l'eau potable sur son territoire communal. La préfète n'agit pas sur l'eau potable. C'est bien le maire qui a le pouvoir au niveau de l'eau potable. Et ce n'est pas le président de l'agglo, même si l'eau potable est une compétence communautaire, c'est le maire. Donc le maire de Poitiers a pris la décision de limiter les usages et d'interdire certains usages de l'eau potable sur le territoire de Poitiers. Pourquoi ? Pour deux raisons. Un, la préfète l'avait pris au niveau de la Vienne. Donc il a décidé de suivre la préfète. Il n'avait pas décidé de le faire avant parce que politiquement, le maire de Poitiers ne souhaite pas pénaliser les habitants de Poitiers et ceux qui boivent de l'eau potable avant de pénaliser le monde agricole. C'est-à-dire qu'il estime qu'il ne serait pas normal que les poids de vin aient des limitations et des restrictions à l'usage d'eau potable alors que l'irrigation et les prélèvements dans le clin seraient encore autorisés. Donc il attend bien que les... Pardon ? J'ai pas compris. La loi. Ah oui, oui, non, mais il pourrait très bien prendre un arrêté avant en limitant les. Et puis le second point, c'est effectivement aussi attirer l'attention sur les poids de vin, sur l'état des ressources. Moi, je me suis aperçu sur les années précédentes, il est arrivé qu'on ne prenne pas l'arrêté d'été parce que le clin était d'un très bon niveau. J'ai eu peur une ou deux fois parce que ne prenant pas l'arrêté, il y a effectivement peut-être peu de gens qui sont sensibilisés, mais en tout cas, on s'est aperçu que lorsque l'on prend un arrêté de restriction des usages l'été, on a des diminutions de consommation l'été. Donc il y a quand même. C'est pareil, hein, on passe pas de. C'est pas des économies de milliers de mètres cubes. Hein, sur Poitiers, on distribue. Vous allez voir dans mon graphe suivant, la consommation de Poitevine est de 20 à 21 000 mètres cubes par jour. C'est peut-être pas 21 000, mais on descend à 20 000 ou 19 000. Voilà, c'est 2 000 mètres cubes jour. Ça vous paraît énorme, vous, mais rapporté aux échelles, c'est pas énorme. Mais quand même, il y a un effet lorsque le maire prend un arrêté de restriction. Je vais très vite parce que je ne vais pas arriver à... là, je vous ai fait la même chose sur Fleury. Donc, vous voyez, Fleury, hein, toujours le plus, la moyenne, le moins. Là, on arrive presque au moins. Donc, 300 mètres cubes qui arrivent de Fleury, ça commence à être très, très peu. Je vous ai fait la moyenne. Alors, après, là, on est sur des nappes plus profondes. Vous voyez les nappes profondes. Alors, contrairement à ce qui a pu être dit avant, nous on est en dessous des moyennes. Alors pourquoi on est en dessous des moyennes? C'est aussi parce que on a un peu plus sollicité nos nappes du Nord pour soulager, je dirais, les nappes du Sud. Ceci explique peut-être cela. Après, on a la même chose sur Verneuil. Alors Verneuil ressemble un petit peu à Fleury parce que c'est pas une nappe profonde. Voilà, ça je vous en ai parlé, donc restriction des usages en vous expliquant pourquoi. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on fait nous au niveau de quand on dit sécheresse, ça veut dire qu'au niveau, je vous ai tout à l'heure dit où Grand Poitiers prélevait son eau potable, et Grand Poitiers a de mémoire 7 captages d'eau potable. Il est évident qu'une des actions principales que peut faire Grand Poitiers vis-à-vis de ce qui nous attend, c'est de mettre tout en œuvre pour que ces captages d'eau potable soient pérennes. Et donc, pour que ces captages d'eau potable soient pérennes, il faut les protéger. Donc là, j'en vois qui remue la tête. Effectivement, mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est bien effectivement de protéger pour que ces captages d'eau potable soient pérennes et pour que la qualité de ces captages ne se dégrade pas. On l'a vu par ailleurs, il y a des exemples dans la Vienne où vous avez des captages qui, alors, j'ai pas à juger, mais qui ont été, enfin, en tout cas, dont la qualité de l'eau ne permet plus une utilisation pour l'alimentation en eau potable aujourd'hui et qui sont malheureusement abandonnés. Aujourd'hui, on est dans une situation où on ne peut plus se permettre d'avoir une eau abondante à un endroit, mais de mauvaise qualité qui pourrait faire qu'elle ne pourrait plus être utilisée pour l'eau potable, ce qui voudrait dire qu'on devrait aller rechercher une autre ressource. Aujourd'hui, très clairement, à Grand Poitiers, il n'y a plus de recherche en eau. Donc on ne va plus chercher. À un moment donné, il y a eu une politique. On était même allé, Bernard doit le savoir, hein, jusqu'à Chauvigny. Alors j'ai plus en tête. Artige, merci. Artige. Donc voilà, il y a eu de la recherche en eau jusqu'à Artige. Donc l'idée de faire venir un gros tuyau d'Artige jusqu'à Poitiers. Aujourd'hui, ça n'a plus cours. L'idée étant vraiment de protéger l'existant pour ne pas avoir à aller chercher l'autre eau. Donc là, on peut effectivement débattre longtemps hein, sur la protection de la ressource, mais je pense qu'Alain Claisse, vous en entendez parler. Alors, tout ce que vous pouvez lire dans la presse, ça en fait partie. Hein, les histoires avec la SAFER d'acheter les terrains, tout ça, c'est dans le sens de protéger au mieux les captages pour préserver les captages existants et surtout ne pas avoir à en chercher d'autres. Et puis après, à un autre niveau, nous on prend de l'eau tous les jours dans le milieu naturel. Par exemple, on a essayé de diminuer au minimum ou au maximum plutôt les prélèvements dans le Clain. Donc vous voyez, on était à 7000 m3 jour en moyenne début septembre. On est arrivé à descendre à 2600 m3 de prélèvements dans le Clain. Ça veut dire qu'on en prélève un peu plus ailleurs. Alors c'est pareil, hein, si vous faites le calcul, hein, 2600 m3 par jour en moyenne dans le Clain, c'est pas énorme hein, par rapport. Alors c'est 2 m3 par seconde. Hein, donc si vous faites le calcul, on en prend quand même peu, sachant que, alors quelqu'un m'y a fait penser tout à l'heure, si je parle chiffres, grosso modo à Poitiers, on est, vous allez voir après, 25 000 m3 de prélevés dans le milieu naturel, et on en rejette à station d'épuration de la Folie, 16 000 à peu près dans le Clain, sachant qu'il y a d'autres stations d'épuration qui rejettent de l'eau épurée dans les rivières. Donc c'est pareil, il y a ce qui est consommé, mais il y a ce qui est rejeté à la rivière, enfin ou aux rivières. Donc la première action, c'est effectivement sur la ressource. La deuxième, et là on s'y est attelé, je vais partir de ce schéma-là, puis après je viendrai sur l'autre graphique. On s'y est attelé vraiment, ces 5 dernières années. Le constat en 2013, le rendement du réseau d'eau potable de Grand Poitiers était autour de 73-74%. Donc ça veut dire que sur 10 litres d'eau qui étaient introduits dans le réseau d'eau potable, 7,3 arrivaient chez vous et donc 2,7 n'arrivaient pas. Alors le n'arrivait pas, alors ne me criez pas dessus, hein, le n'arrivait pas, il y a effectivement forcément des fuites. Il y a aussi, ça certains d'entre vous l'ont peut-être constaté, des éléments technologiques ou techniques. Je prends 5 exemples, les compteurs. Donc vous avez tous chez vous un compteur d'eau. Aujourd'hui, nous avons l'obligation, l'obligation est qu'un compteur n'ait pas plus de 15 ans, d'âge, parce qu'au-delà de 15 ans, on estime qu'il compte mal. Donc nous remplaçons les compteurs à un rythme de 15 ans. Et c'est vrai que nous avions un petit retard sur ce remplacement des compteurs. Là, on a rattrapé le retard, donc on en remplace. On en a 45 000, donc on en remplace 3 000 par an. Et vous avez peut-être eu la malchance d'avoir un remplacement de compteur il n'y a pas très longtemps chez vous. Donc si vous aviez un compteur qui avait 15-20 ans et qu'on vous a mis un nouveau compteur, vous avez peut-être vu votre augmentation, votre volume d'eau potable augmenté, c'est pas que vous consommez plus, c'est tout simplement que l'ancien compteur sous-comptait et que le nouveau compte bien. Donc, grâce à ça, ça aussi, effectivement, ça améliore le rendement. Donc, on a eu quand même un très gros travail ces dernières années. Donc, pour faire très simple, parce que Jacques-Bernard se rapproche. Je vais aller sur ma deuxième diapo. Donc, on a fait un très gros travail sur effectivement les fuites et l'amélioration du rendement depuis 2013. Donc, très concrètement aujourd'hui, le rendement sur Poitiers est de 87%. Ce qui est énorme. Ceux qui vous disent on fait 90 ou 95%. Enfin, moi aussi, je peux vous sortir les mêmes chiffres. En tout cas, c'est énorme. Ça veut dire que sur 10 litres mis dans le réseau, 9 arrivent chez vous. Honnêtement, je pense que c'est très bien. Très concrètement, ça veut dire qu'en 2013, on mettait 10 millions de mètres cubes. On prélevait 10 millions de mètres cubes sur la ressource en eau. pour vous alimenter en eau potable. Aujourd'hui, on en prélève 9 et on vous alimente toujours en eau potable. Donc, il y a 1 million de mètres cubes qui a été gagné entre 2013 et 2017. Alors, ce n'est pas 1 million de mètres cubes par an, attention. Hein. C'est 1 million de mètres cubes sur... entre ces deux années. Ce qui est important, mais effectivement, le million de mètres cubes, ramenez-le aux autres chiffres, c'est quand même très faible. Très concrètement, comment on fait ? Alors, on a effectivement un gros travail sur les fuites. Là, je vous mets tout ce qu'on voit, ce que l'on voit tous les matins, ce qu'un technicien voit tous les matins sur un écran. Donc, vous avez sur les principales canalisations de Poitiers, donc là vous reconnaissez, on est sur le secteur de Poitiers Sud, la G Saint-Benoît, les Trois Cités, le centre-ville, les Couronneries, Beaulieu, donc sur une échelle beaucoup plus large. Vous avez des points verts, des points oranges et des points rouges, et au milieu de ces points, vous avez des chiffres. Tout ça, ce sont des capteurs que l'on a sur le réseau d'eau potable. Donc, si je zoome ici dans ce secteur-là, ça veut dire qu'on a 10 capteurs. C'est vert, donc ça veut dire qu'aucun de ces capteurs. N'a détecté de fuite. Alors, comment on détecte les fuites ? C'est tout simple. Les capteurs écoutent, c'est un système d'écoute, ce qui se passe entre 1h et 2h du matin. Et en général, entre 1h et 2h du matin, vous tirez très peu d'eau chez vous. Donc, s'il y a de l'eau qui coule dans un réseau, ça veut dire, théoriquement, qu'il y a une fuite dans ce réseau. Donc, vous voyez, la nuit précédente, là, effectivement, on a 10 cas. Alors, j'ai dézoomé, hein, mais ici, on a 11 capteurs. Donc, ça veut dire que les 11 capteurs sont en vert. Il n'y a pas de problème. En revanche, ici, là, vous avez un chiffre. Alors, ça paraît rouge. Il y a 4. Donc, ça veut dire qu'au moins un de ces 4 capteurs a signalé présomption de fuite. Donc, ensuite, on envoie une équipe et on répare tout de suite. Donc, ça, c'est, je dirais, en direct tous les matins, ce qui est vu par un technicien. Et on a une équipe qui va tout de suite sur place, qui arrive à localiser précisément la fuite. Et s'il y a réellement fuite, on a une équipe qui intervient. C'est ça qui nous a fait gagner du temps et qui nous permet, qui nous a vraiment permis d'améliorer notre rendement de réseau d'eau potable. On l'a fait. Donc, on a 600 capteurs. Hein, c'est à peu près 400 km de canalisation qui sont surveillés comme ça en permanence sur 1100 km sur l'ensemble du territoire. Mais ce sont les 400 principaux kilomètres et les plus grosses canalisations. Voilà, donc les deux efforts, la protection de la ressource et très concrètement, alors là, ça tient plus, à l'effort technique au niveau de la direction. Alors, technique et financier, il faut remplacer du tuyau, sachant que par rapport à l'assainissement, il y a très peu de subventions sur l'eau potable, parce que alors, on ne va pas rentrer dans le débat des agences de l'eau, hein, mais ils n'ont plus d'argent. Mais l'argent des agences de l'eau, c'est pour... je fais très simple, hein, c'est pour arriver à un bon état et pour arriver au bon état écologique, c'est surtout de l'argent qui est là pour qu'on améliore nos réseaux d'assainissement. Donc, effectivement, sur la partie assainissement, il y a encore des subventions à l'agence de l'eau. Sur la partie eau potable, on a très, très, très peu d'aide. Voilà. Donc, ça a coûté de l'argent. Après, les économies, ça coûte. Alors, ça, c'était une question d'un élu qui m'a posé la question, mais M. Depont, on a économisé 1 million de mètres cubes, donc on a économisé plein d'argent. Non, on n'économise pas plein d'argent parce que, si vous voulez, on a toujours. Nos 1100 km de réseau, on a toujours autant d'installations. C'est un peu chez vous, dans votre maison. Hein. Quand vos enfants sont partis, vous n'avez pas diminué par énormément le coût de fonctionnement de votre maison. Hein. Vous allumez toujours, vous chauffez toujours un peu, vous consommez toujours de l'eau. Nous, c'est pareil. Hein. L'infrastructure est là, donc c'est très peu d'économie pour... Oui. Alors, ma conclusion, effectivement, c'est... à l'échelle d'un service, je dirais ce que l'on peut faire sur la sécheresse est limité. On est plus dans le montrer l'exemple. Et le montrer l'exemple, effectivement, lorsque vous dites que, et c'est plus ça, hein, lorsque vous dites que vous économisez l'eau et que vous avez un rendement. Alors, pour les initiés, effectivement, entre 85 et 90%, je pense que c'est important et effectivement, je pense que c'est extrêmement parlant.
C'est bien au-dessus de la moyenne française.
C'est au-dessus de la moyenne française. Oui. Alors après, il faut faire attention aux chiffres, hein, parce que si vous voulez, je vous le sorte à 95, hein, je vous le sorte à 95%, mais ce n'est pas le but.
Ok, merci Stéphane. On peut consacrer encore un peu de temps, sauf si la salle est occupée, pour des questions. Même si Camille veut reprendre son train, c'est normal. Alors, allez.
Oui, bonjour. Une petite question. Hydrologiquement parlant, la mise en place de systèmes de rétention comme les bassines, est-ce que ça pose un réel problème dans la gestion de l'eau, dans la sécheresse, etc. quoi ? Suis-je clair ?
Oui.
On retient de l'eau, on la remet dans le circuit. Je fais le parallèle avec la centrale de Civaux, où on a affiché je ne sais combien de mètres cubes, enfin de pourcentage, alors que l'eau, tout compte fait, elle passe à travers la centrale et elle retourne. Le seul écart, c'est environ 5 mètres cubes seconde qui s'évapore.
Oui, c'est le prélèvement qu'indiquait Frédéric, c'est pas la consommation. Bien sûr, bien sûr. Les bassines, bonne question. Bon. Quelle est ma position, moi, la position des hydrogéologues, notamment quand le président Rousset nous appelle ou nous fait appeler pour nous demander notre avis? On dit on n'est pas contre tout compte fait les bassines, sauf si on prélève dans les aquifères. Donc ça veut dire on est contre le prélèvement dans les nappes phréatiques pour remplir des bassines d'eau. Et la deuxième condition qu'on met, alors évidemment, là déjà, ça élimine quand même pas mal de choses. La deuxième condition qu'on met, je dirais même une troisième, on prélève l'eau dans les eaux de surface que lorsque les débits le permettent, bien sûr. Et la troisième condition, c'est on contrôle la qualité de l'eau stockée, notamment l'été, et notamment vis-à-vis de l'aspect microbiologique, parce que si c'est des eaux pour donner à boire au bétail, ou pour faire de l'irrigation par aspersion, il y a toujours un risque sanitaire important. Donc voilà. Alors maintenant, tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu vite quand j'ai dit, pour économiser le milliard de mètres cubes, il faut soit pomper sur les débits de crise, et tant pis si on n'a plus d'éco de biodiversité, c'est pas mon opinion, bien sûr, soit arrêter l'irrigation. Il peut y avoir quelques solutions intermédiaires, qui consiste à construire des stockages d'eau. Alors, je sais que ça va s'énerver probablement dans une partie de l'assistance, parce que c'est compliqué, ça dépend du territoire, ça dépend de l'endroit où on prélève l'eau, ça dépend de l'époque où on prélève l'eau. Tu citais l'EDF, mais c'est vrai que si, par exemple, sur la Vienne, on connaît tous les deux la Vienne, moi-même j'habite sur la Vienne, on n'a jamais vu la Vienne depuis... que la centrale de Civaux existe, soit en inondation catastrophique, soit en étiage catastrophique, même cette année. Donc, c'est principalement grâce, je sais bien qu'ils ne font pas que pour ça, ils font aussi pour faire marcher leur centrale nucléaire, aux retenues d'eau qui est en amont sur la Vienne. Donc, parfois, il y a probablement des solutions, notamment au pied des Pyrénées, peut-être des solutions à trouver pour... créer de nouvelles ressources, c'est pas tout à fait le mot, mais stocker de nouvelles ressources. Mais pas n'importe comment, ça je suis d'accord.
Juste, j'ai oublié je savais quand tu m'as demandé de conclure rapidement que j'oubliais quelque chose. Au niveau de l'eau potable, il faut avoir aussi en tête que j'ai parlé de qualité, on a parlé de quantité, mais on a aussi une obligation sanitaire, c'est de délivrer une eau à une certaine température. Alors, autant cette année, la température, nous ne l'avons pas frôlée. Pourquoi ? Je ne sais pas, pourtant il a fait très chaud au mois d'août. C'est une température, tu me reprends si j'ai des bêtises, 22 degrés, je crois. Oui, 25, merci. L'an dernier, on a été limite, c'est-à-dire que très concrètement, lorsqu'il fait chaud, l'eau elle augmente au niveau de la... De la ressource, l'endroit où on le prélève. Quand on la prélève dans le clin, plus la température augmente. Et quand elle passe dans nos tuyaux, elle peut encore augmenter. Donc parfois, le 25 degrés peut être limite ou atteint. L'an dernier, on n'était pas très loin. Et on a dû faire attention sur certains secteurs pour ne pas délivrer une eau non conforme, très clairement, en termes de température. Alors, température, ça veut dire derrière qu'il y a des risques...
De développement, de bactériaux, de légionnelles éventuellement, dans les réseaux de distribution d'eau potable à l'intérieur de la maison.
Alors, on a... Oui, mais alors, un avantage sur Poitiers, si vous voulez, c'est que l'eau, elle circule quasiment en continu dans nos réseaux. On n'est pas comme dans certaines collectivités où ils ont un gros stockage, et puis l'eau est stockée pour 3 jours et vous alimente pour 3 jours. Très concrètement, le volume dans nos châteaux d'eau aujourd'hui ne suffit pas à vous alimenter sur une journée. Donc l'eau circule en continu, ce qui fait qu'elle n'a pas le temps de se réchauffer non plus.
Pourquoi il y a des dérogations ? Parce que la température n'est pas une limite de qualité imposée par la communauté européenne. C'est une référence de qualité. Bon, mais l'ARS ici en France a tendance à dire limiter référence, c'est la même chose pour nous, ce sur quoi ils n'ont pas de tort, mais en termes de droit européen, c'est une référence de qualité, non pas une limite de qualité. Et d'autres questions, s'il vous plaît ?
Oui, je voudrais revenir sur la question de. Enfin, sur deux questions. Pour le nucléaire, vous disiez qu'en fait, il n'y avait pas de problème l'été, souvent, hein, pour qu'elle fonctionne. Mais en tant que membre de la CLI, je peux confirmer que très souvent, il y a un réacteur qui est arrêté pour maintenance, etc., parce que ça les arrange. Et qu'après, fin août, le lac de Vassivière va pouvoir être. L'eau du lac de Vassivière pouvoir être utilisée pour approvisionner à nouveau en eau. La question que je voulais poser, c'était par rapport à la zone
oui, mais
de captage.
La fermeture de réacteur, c'est. Aussi parfois pour des questions de légionnelles ou d'amibes, non ?
Oui, aussi, par exemple. Ah, d'accord. Oui. Pour la zone de captage de Fleury, vous disiez que c'était une zone sensible, hein, une zone effectivement dont on parle beaucoup en ce moment, parce qu'un contrat territorial vient de se mettre en place, qui devait être signé récemment par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, la préfecture et la mairie, qui n'a pas été signé en septembre. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Quelle est la raison ?
Moi non plus, à part ce qui a été dit dans la presse, je ne peux pas vous en dire plus. Hein.
Là-bas d'abord.
Oui, je revenais sur les bassines. Là, c'était, tu as cité 3 points. Est-ce qu'il n'y en a pas un quatrième ? Parce que même si ce n'est pas directement dans les conditions de sécheresse, mais si on fait des bassines pour lutter contre la sécheresse, c'est la gestion des pics de crue. Dans le cas où il y a des larcages, justement, lorsque le niveau des crues augmente, il y a le risque aussi qu'il y ait un relargage d'eau dans des moments où, justement, c'est le pire moment du pic de crue et de façon non contrôlée.
Oui, oui. Monsieur Lacroix.
Pardon, pour Fleury, je ne peux pas répondre sur le pourquoi, mais une nouvelle date est trouvée avant la fin de l'année. Hein.
Vous avez dit... Excusez-moi. Vous avez dit que vous rachetiez des terrains autour des sources comme Fleury pour protéger la qualité. Je voulais savoir ces terrains, que deviendront-ils ? Seront-ils reboisés ? Seront-ils confiés à des agriculteurs éthiques, avec une agriculture éthique ? Puisque j'habite ce coin-là et que l'eau en ce moment à La Vosso est absolument infâme. J'ai recommencé à acheter des bouteilles d'eau, ce que je ne faisais plus depuis longtemps, parce qu'elle est trouble, qu'elle est mauvaise de goût, etc. Voilà, donc je voulais savoir... Ah oui, vraiment. Non, je ne savais pas que j'avais des problèmes avec Fleury, je vous le dis, elle est mauvaise. Elle est très mauvaise. Et voilà, je voulais savoir ce que ces terrains devenaient. Alors,
très, très concrètement, alors déjà, à La Vosso, vous ne buvez pas de l'eau de Fleury. Hein. Alors, à La Vosso, vous buvez de l'eau qui... Oui, alors ça aussi, c'est un autre débat. Mais l'eau appartient à tout le monde, hein, donc... très concrètement, effectivement, l'eau qui est captée à Fleury vient à l'usine d'eau potable de Beljouanne. Et de l'usine d'eau potable de Beljouanne, on ne dessert que, alors pas les 13 communes de Grand Poitiers à 13, mais même 8 ou 9. Quoi. Donc très concrètement, vous ne buvez pas de l'eau qui vient de Fleury. C'est le Haute-Vienne-Sivert qui vous alimente. Donc Fleury, je ne sais plus d'où elle vient. Enfin, je peux le savoir, hein, mais ça, vous devez l'avoir sur votre facture d'eau. Hein. Pour répondre plutôt oui. Alors pour répondre à votre question, alors oui, je répondais à Madame. La date est décalée, mais une nouvelle date. Je pense que d'ailleurs les invitations sont parties ou vont partir pour la signature du contrat de Fleury d'ici la fin de l'année. Pour répondre à votre question sur les effectivement ce que vous avez pu lire dans la presse, les hectares. Que la SAFER a décidé d'attribuer à Grand Poitiers. Donc Grand Poitiers s'est vu attribuer ses hectares. Aujourd'hui, nous rédigeons un cahier des charges environnementales et ces hectares seront confié à un agriculteur qui devra respecter ce bail environnemental. Donc, il va pas être, je dirais, il va pas être écrit. Ça doit être de la forêt. Ça doit être. On va plutôt. On est en train de le rédiger. Et il y a même une réunion technique la semaine prochaine avec avec les partenaires concernés pour qu'il y ait aussi un. Je dirais qu'on ait un retour de leur part. Mais en tout cas, ce qui va être écrit, c'est effectivement la limitation des intrants. Ça, c'est de manière très nette. Enfin, c'est clair. Mais on ne va pas écrire il faut du bois, il faut de l'herbe, ou il faut. On va dire voilà, il faut que les activités n'aient pas plus de temps d'intrants, etc. Donc, c'est un bail environnemental qui est écrit.
S'il y a une question pour.
Pardon, et après, très concrètement. La SAFER nous a dit, vous avez un vous allez voir un premier interlocuteur, si ça ne va pas avec le premier, vous allez voir un deuxième, etc. Ce qui fait foi, c'est le bail.
Oui, je disais, s'il y a une question pour Abad Chabi, je la fais passer en priorité parce qu'il doit partir pour prendre son train.
Juste une petite question vite fait concernant la préservation de la qualité de l'eau. Est-ce que Grand Poitiers n'a pas des progrès à faire aussi sur la qualité des rejets? Je pense notamment au réseau du centre-ville, où eau pluviale et eau usée sont mélangées. Et lorsqu'il y a des gros orages, la station de La Folie ne peut pas tout gérer et elle est simplement bypassée. C'est-à-dire que tous les rejets vont directement dans le Clain.
Peut-être une réponse rapide, Stéphane, parce qu'on rentre dans un domaine un peu plus.
Oui, alors. Alors, oui, il ne faudrait pas une réponse rapide. Alors, non, tous les rejets ne vont pas dans le Clain. Alors, là, il y a effectivement, la station de la Folie ne devrait recevoir que des eaux usées. Une partie, notamment de Poitiers, et le centre-ville de Poitiers, alors aussi, ça aussi, ça peut faire partie d'un débat, je ne regarderai personne. C'est un réseau unitaire qui collecte à la fois les eaux usées et les eaux pluviales sur le centre-ville de Poitiers. Il a été décidé, lorsque le centre-ville que vous connaissez a été aménagé, de ne pas mettre de réseau d'eau pluviale et de réseau d'eau usée pour différentes raisons. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'effectivement, très concrètement, lorsqu'il y a un gros orage sur Poitiers, l'eau de pluie qui va dans les réseaux unitaires du centre-ville, à un moment donné, est censée se retrouver à la station d'épuration. C'est quand même pas tout à fait comme ça. La station d'épuration, effectivement, pour faire très simple, je vous dis, elle reçoit 16 à 20 000 mètres cubes d'effluents par jour. Lorsqu'il y a un gros orage, elle est à 40 000. Donc déjà, ça veut dire qu'elle est capable de doubler sa capacité. Donc tout ne part pas en direct. Hein. La station d'épuration, elle traite les 40 000 plus difficilement que les 20 000, mais elle les traite quand même. Et en amont de la station d'épuration, on a des systèmes comme au moulin par an. On a une grosse cuve qui est capable de récupérer 5 000 mètres cubes qui sont tamponnés avant d'envoyer à la station d'épuration. Et encore en amont, et ça, ça existe, effectivement, sur des réseaux, pour pas que les réseaux explosent, il y a ce qu'on appelle des systèmes de déversoir d'orage. Donc en cas, effectivement, de gros orages, si le réseau se met en charge, il y a un système qui fait que la partie supérieure du réseau va effectivement au Clain. Donc ça, on a deux contraintes. Un, tous les déversoirs doivent être connus et répertoriés auprès de la police de l'eau, et deux, dès qu'il y a un déversement, on comptabilise ce qui est déversé dans le milieu naturel. Donc on a effectivement, vous allez me sauter dessus, là, un droit à polluer lorsqu'il y a une grosse pluie d'orage, mais rassurez-vous, hein, lorsque vous avez un gros tuyau, l'eau qui est plutôt sale, elle est plutôt au fond, et l'eau qui déborde, c'est plutôt l'eau qui est en surface, c'est qui est plutôt moins sale. Voilà.
D'autres questions on essaie d'entrer un peu moins dans la technique, parce que sinon, ça se sentira sur
le moment. Oui, bonjour. Donc moi, j'aimerais plus revenir sur l'aspect sol et irrigation. Donc je pense que les agriculteurs ne connaissent pas les spécificités de leur sol. Et donc ils ont tendance à mettre la même quantité d'eau sur leur sol que les voisins. Et on sait aujourd'hui qu'un sol ne se comporte différemment au niveau de l'eau en fonction de leurs caractéristiques. Et je pense que tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience des sols, tous les problèmes au niveau de la surexploitation des ressources en eau et la non-assimilation de l'eau par les plantes ne vont pas être résolus. Et je ne suis pas sûr que, par exemple, en agro, il y ait la prise de conscience, l'étude des sols, par exemple. Oui.
De la qualité des sols.
Enfin, oui. De la diversité des sols, puisqu'on sait que. Oui.
Je pense, vous avez posé la question, vous avez même effectué la réponse. Je pense que c'est vrai, cette histoire de connaissance de sol, c'est extrêmement importante, non seulement pour la quantité d'eau à ajouter, mais aussi pour la fertilisation. Vous avez évoqué un mot très important, le voisin met tant, je mets aussi tant. C'est une pratique aussi très répandue dans les pays du Sud aussi. Donc il y a cette question de voisin, sans qu'on sache exactement quand et comment on ajoute, avec des conséquences toujours vraiment tout à fait néfastes, notamment sur la question d'eau et sur la question de fertilisation, sachant que l'eau, on ne peut pas le mettre tout le temps, il faut le mettre quand la plante en a besoin. Et c'est pourquoi, normalement, les sécheresses printanières, comme celle de 2011, par exemple, elles étaient dévastatrices parce que c'est le moment où les plantes commencent à en avoir besoin, le remplissage de grains. Et donc, si, même si l'eau arrive après, la plante ne se rattrape pas. Et donc, il y a dégâts sur les récoltes.
Merci. Alors, je vais changer de sujet et revenir à la situation qui est celle qu'on connaît à l'heure actuelle. Et j'ai envie de vous poser une question par rapport aux arrêtés préfectoraux. Parce que pour m'être intéressé aux arrêtés préfectoraux, donc pris dans la Vienne par rapport au par rapport à l'irrigation, justement, et aux restrictions d'irrigation. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Bon, a priori, ça ne marche plus, mais ça ne veut rien. C'est apparemment quelque chose d'extrêmement complexe dans la mesure où on parle de bassins, de sous-bassins, avec des noms qui, pour le citoyen lambda, c'est impossible de s'y retrouver. Et globalement, moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait des arrêtés préfectoraux de restriction qui étaient pris, mais qui étaient pris là où il n'y avait pas de problème d'irrigation et que les agriculteurs pouvaient continuer à irriguer malgré tout leur... Est-ce que c'est une fausse impression ou est-ce que vous pouvez nous renseigner par rapport à ça, s'il vous plaît?
Alors... Enfin, je pense qu'il y a une explication. Par contre, je pense très honnêtement que les arrêtés préfectoraux, lorsqu'ils sont pris en fonction de l'état des ressources et de l'état des rivières. Donc, c'est vrai, quand on parle de la Dive, c'est sur le secteur de la Dive. Là, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières. En revanche, c'est vrai que sur le terrain, c'est difficilement compréhensible. Un simple exemple, je connais un agriculteur qui est sur le secteur Klein vers Smarve. Lorsque la préfète limite les restrictions, je prends l'exemple du Klein, elle peut limiter les restrictions, prélèvement dans le Klein ou prélèvement en nappe. Je dirais l'avant-dernière restriction, les agriculteurs n'avaient plus le droit de prélever dans le Klein. Mais ceux qui avaient des forages dans les nappes du Klein, ils avaient le droit de prélever 50% de leur volume habituel. Donc ça veut dire que si vous retenez que la préfète a interdit les prélèvements dans le Klein, vous passez le long du Klein, vous ne comprenez pas que quelqu'un à côté du Klein arrose. Oui, mais c'était peut-être que son prélèvement n'était pas dans le Klein, mais était dans un forage et qu'il avait effectivement 50%. Et le pire du pire, c'est que lorsque la préfète interdit... elle interdit les prélèvements, elle interdit pas l'arrosage. Donc le pire du pire, c'est que vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui ne prélève pas dans le Klein, qui n'a pas de captage de captage, mais qui a sa propre réserve. Et lui, ayant sa propre réserve, eh ben il peut arroser quand il veut. Et donc ça, c'est vrai que c'est incompréhensible parce que vous passez, vous voyez quelqu'un qui arrose, mais il est tout simplement peut-être en train de vider. En train de vider la réserve qu'il a remplie l'hiver dernier. Mais comme la préfète, elle interdit les prélèvements et que lui, il a prélevé au moment où c'était autorisé, il continue d'arroser. Et c'est vrai que ça, enfin, à chaque fois, on y a droit, et effectivement, notamment sur le sud. C'est un cas particulier, mais que les gens ne comprennent pas.
Juste sur la complexité, effectivement, des arrêtés, la prise d'arrêtés, c'est vrai que c'est un système assez complexe. Donc nous, on suit ça un petit peu chaque année. D'ailleurs, on a un site internet où on répertorie les prises d'arrêtés, les indicateurs. Donc à chaque fois, il y a des indicateurs. Tous les ans, les arrêtés cadres, enfin, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement, mais sont revus. Donc après, avec, il y a un ensemble d'indicateurs. Effectivement, par exemple, sur le CLIN à Poitiers, c'est un des indicateurs pour les prélèvements d'interdiction, notamment pour les prélèvements rivières, aussi pour certaines nappes. Il y a du supratoarcien, quand le CLIN atteint son débit de crise, sont, les prélèvements sont restreints à 50%. Par contre, les nappes de l'infratoarcien, qui est encore plus profond, ne sont pas forcément restreintes. Enfin bon, il y a tout un jeu de règles, c'est vrai que c'est assez compliqué, faut s'y plonger un petit peu dedans, c'est pas forcément évident. En tout cas, c'est des choses qui sont concertées tous les ans. Les règles de fonctionnement, donc des arrêtés cadres, sont tous les ans revues. Et maintenant, on est vraiment sur des échelles de bassin. Et on a aussi un autre système avec les organismes uniques de gestion collective qui gèrent justement l'ensemble des prélèvements agricoles attribués chaque année. Quoi.
Alors on se donne 16h30 max. Madame.
Oui. Oui, enfin, ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave.
Si,
ça marche. Ah bon, ok. Je voudrais revenir à Fleury. Si j'ai bien compris, il n'y a pas de. Je voudrais revenir à Fleury. Si j'ai bien compris, donc votre contrat que vous allez signer ne stipule aucune contrainte pour les agriculteurs sur le mode de culture qui va entourer la source, c'est ça ? Autour de la source de Fleury.
Alors le contrat de Fleury, ce qui est écrit dans le contrat de Fleury, ce sont des objectifs avec entre guillemets une obligation de résultat. Donc c'est un contrat qui est écrit sur 5 ans avec des objectifs sur 5 ans et des objectifs qui seront regardés tous les ans. Donc ça veut dire qu'il y a un objectif, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais il y a un objectif de terres qui vont passer à l'agriculture biologique pour être très concret. Alors après, on ne va pas rentrer dans le débat sur est-ce que c'est le pourcentage de l'objectif qui est écrit est suffisant ou pas. Mais en tout cas, voilà, le contrat, alors le contrat, il fait un certain nombre de pages, hein, je l'ai pas là. Il y a un objectif sur les surfaces en prairie à conserver, les surfaces en prairie à mettre, sur les intrants, etc., etc. Donc des objectifs sur 5 ans avec une révision annuelle pour voir si on ne dérape pas. Mais c'est sur l'ensemble du bassin. Donc très clairement, on n'a pas dit qu'il faut faire de l'agriculture biologique là ou là ou là. On a dit, voilà, on a l'objectif d'atteindre un pourcentage d'agriculture biologique sur l'ensemble du bassin. En visant quand même, il y a une carte qui est importante sur Fleury, c'est une carte de sensibilité des sols, avec des sols sensibles à des sols moins sensibles. Les sols sensibles étant des sols sur lesquels, qui sont sensibles à la qualité de l'eau potable. Donc s'il y a sur ces terres-là une agriculture, je dirais, avec des problèmes de qualité, la qualité pourra se ressentir sur l'eau potable. Donc il y a vraiment des terrains qui sont visés, mais il n'y a pas une obligation sur ces terrains-là. Il y a un objectif chiffré sur l'ensemble du périmètre, qui est grand en Fleury, hein, c'est un grand périmètre.
Les deux dernières questions, alors, vraiment. Monsieur, d'abord, je crois qu'il a levé la main en premier. Pardon, c'est pas très galant.
Mais... Je sais pas s'il marche. Oui, si.
Pour faire le lien entre eau et alimentation, qui est évoqué tout à l'heure dans des questions, et le lien entre producteur et consommateur, et voir la part de la marge de manœuvre de chacun, à quoi sert... Pourquoi il y a de l'irrigation ? À quoi ça sert essentiellement ? Pour du maïs en majorité. Pourquoi du maïs ? Parce que c'est un grain qui ne revient pas très cher pour nourrir certains animaux, essentiellement les porcs. Pourquoi les porcs ? Parce qu'on sort de la viande à 1,30€ le kilo vendu par l'éleveur. Et pourquoi de la viande de porc ?
parce que les gens ont envie de manger du saucisson, du pâté, du jambon blanc, etc. Donc, si on fait des choix de consommation, ça a indirectement des incidences sur la consommation d'eau et sur les enjeux climatiques. Ça, c'est pour faire la part sur la marge de manœuvre de chacun de nous, qu'on soit producteur ou consommateur.
Alors moi, c'était... Oui, c'est bon. C'était une question par rapport à la carte que nous a montrée Abad Chabi tout à l'heure, où on voyait qu'effectivement, suivant les zones géographiques, l'impact au niveau des régions était différent, au niveau de la sécheresse. Est-ce que l'influence, on voit au niveau macro qu'il y a aussi une dérégulation des courants, notamment du Gulf Stream. Est-ce que dans le cadre des prospectives, on arrive aussi à intégrer ces dimensions-là ou on part en se disant que tout ça ne change pas forcément ?
Oui, c'est, vous avez raison, on voit bien. Alors sur les cartes d'hydroclimatologie, c'est la même chose. On voit bien les zones qui sont les plus impactées en termes de réduction des débits des cours d'eau à l'échelle 2050 par rapport à d'autres. Bon, bien sûr, il y a le sud de la France, notamment le Grand Sud-Ouest, mais aussi une partie du Sud-Est. Et puis il y a des zones particulièrement touchées, par exemple à l'ouest du bassin parisien. Sans qu'on ait vraiment des explications très précises. Mais oui, c'est des cartes qui existent et sur lesquelles les hydroclimatologues, notamment ceux qui ont sorti les cartes Explore 2070, que vous pouvez trouver sur le site du ministère de l'écologie et qui vous donne l'hydrographie des cours d'eau telle qu'elle est prévue en 2050, je crois, et en 2100 ou 80, j'ai plus les dates exactement en tête, mais à différents niveaux. Et je pense que au niveau de l'INRA et de la sécheresse des sols, le stress hydrique des sols, c'est la même approche. Et qu'on a aussi des cartes qui mettent en évidence des bassins ou des sous-bassins ou des sous-régions sur lesquelles le stress hydrique est un peu plus fort que dans d'autres. Sauf que là, la nature du sol intervient beaucoup plus que la nature de l'eau qui coule dans la rivière, bien sûr, pour l'analogie avec les rivières dont je disais tout à l'heure. La nature du sol intervient aussi beaucoup. En conclusion, je n'ai pas le temps de vous présenter les diapositives que j'ai prévues en conclusion. J'aurais tendance à vous dire que répétez ce que disent les spécialistes du GIEC et ce qu'ils ont dit récemment, ou qu'ils ont redit récemment, même si c'était dit depuis des dizaines d'années, on n'a pas 50 solutions pour atténuer les effets du changement. Je ne parle pas d'adaptation, je parle d'atténuation. On n'a pas 50 solutions pour atténuer le changement climatique. C'est la seule solution, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On le sait. Alors vous allez me dire, la France ne contribue qu'à 1,2, 1,3, 1,5, j'ai plus le chiffre en tête, % de la contribution mondiale en termes d'émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique, peut-être. Alors évidemment, la Nouvelle-Aquitaine encore moins et Poitiers encore moins en termes de pourcentage. Mais ce sont des habitudes qui ont été reprises plusieurs fois, redites, et qu'il faut essayer faire en sorte d'instaurer à tous les niveaux de notre vie, qu'elles soient familiales ou professionnelles. Notamment parce que j'entendais un messager du climat hier, dans le train du climat, qui disait, vous savez, les pays en développement ou les pays en voie de développement copient toujours les bonnes ou les mauvaises habitudes, d'ailleurs, sur les pays développés. Et si les pays développés prennent l'habitude de faire attention à tout ce qui contribue au développement de l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, les pays en voie de développement ou en développement feront la même chose. C'est-à-dire que si on ne prend plus sa voiture pour faire 500 mètres, mais on utilise son vélo, la marche à pied ou le transport en commun,
si on baisse son chauffage d'un degré, ou si on fait en sorte que son appartement ou sa maison soit suffisamment isolé, si on fait des économies d'eau, on l'a dit aussi sur l'alimentation, économie de viande, etc. Et j'en passe, j'oublie des choses, bien évidemment. C'est sûr qu'on contribuera tous un petit peu à l'atténuation du changement climatique, mais on donnera surtout l'exemple qui nous permettra de gagner. Vous savez, en termes de ppm de CO2, je crois que Serge l'a rappelé hier, normalement, la valeur naturelle est autour de 300, je crois, tu as dit. On est 280, on est plutôt autour de 400 aujourd'hui. Le scénario le plus optimiste du GIEC tend vers 290, alors que le plus pessimiste, le RCP 8.5, tend vers 1300 et des poussières ppm de CO2. Le plus optimiste, si on regarde bien aujourd'hui où est-ce qu'on en est en CO2 émis, si on regarde bien, je ne vous ai pas montré les diapos, où on en est en termes de température sur la France, on ne voit pas encore bien, parce qu'il nous faut encore 10 ou 20 ans de plus pour faire la différence entre les courbes, mais on est presque autant sur la courbe du scénario le plus pessimiste que sur la courbe du scénario le plus optimiste. Donc on peut très bien, non pas atteindre 1,5 ou 2 degrés de plus en 2100, mais on peut très bien atteindre plutôt 3-4 degrés, voire plus, si on suit le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire le RCP 8.5. Donc on a tout intérêt à atténuer d'abord et faire tout ce qu'on peut pour atténuer le changement climatique. Bien sûr, il faudra aussi savoir s'adapter, parce qu'on ne pourra pas faire marche arrière sur des choses qu'on a provoquées il y a plusieurs décennies. Merci pour votre présence. Et bon week-end. Bonne fin de week-end.